Bienvenue à tous dans le podcast. Bienvenue à la table des mots qui font des phrases et des phrases qui font des idées. On fête aujourd'hui les 1 an du podcast. Il y a eu 2 émissions.
C'est un beau score.
Mais quand même, on est venu là aujourd'hui sans même savoir que c'était les 1 an de l'émission. On tourne aujourd'hui 1 an pile après la première émission chez Radio Campus.
Très beau.
Sans faire exprès, c'est pour dire un peu le niveau qu'on a.
D'organisation.
Ah ouais. on est tellement mal organisé, mais ça tombe quand même nickel. Donc voilà, j'espère que vous allez bien chez vous. Pour rappeler un petit peu le concept de l'émission, voilà, c'est un format podcast, on va papoter, on va discuter, chacun a prévu des petites choses, des petits happenings. Il y aura un peu de musique pour ceux qui nous écoutent sur les antennes de Radio Campus, si vous êtes à la maison, au travail ou en voiture. Et également sur YouTube, sur la chaîne du podcast, qui s'écrit P-O-T-E-K-A-S-T, pour ceux qui n'entendent pas l'émission entièrement à la radio et qui souhaiteraient revoir une rediffusion en vidéo, si vous voulez voir en même temps les tronches qu'on a à la radio. Donc voilà, c'est à la fois sur Radio Campus Amiens 87.7 et sur la chaîne YouTube du podcast. Donc c'est parti, sans plus attendre, on va commencer. Nous sommes actuellement le 14 novembre et on sort tout juste de la période spooky spook, la période Halloween, la période qui fait peur. Et donc on s'était dit qu'on allait enchaîner sur cette thématique et parler un petit peu de tout ça. Donc pour commencer, moi je voulais un peu aborder le thème du paranormal, les expériences bizarres, les apparitions, les petits bruits, les maisons qui craquent, toutes ces choses-là. Moi j'ai vécu personnellement des petites choses, déjà dans mon enfance, même plus récemment, des petites choses bizarres dans ma famille. On a une famille un peu bizarre, j'avais une grande tante qui faisait des trucs bizarres, qui faisait de la magie blanche, de la magie noire.
Ça se voit frérot.
C'est vrai, ça se voit.
C'est un peu écrit sur ta tête.
Ah ouais, ouais bah, ça m'étonne pas, tu vois, j'ai un bagage énergétique familial assez lourd. Donc déjà je vais me tourner vers vous, quel est votre rapport à ça déjà? Est-ce que vous croyez au paranormal, déjà?
C'est très compliqué.
Là, on a quelqu'un de très cartésien, psychologue, qui est...
Ouais.
Attends, mais je vous ai même pas présenté, les gars.
C'est vrai, ça.
J'ai lancé comme ça l'émission. Ici, Jawai, voilà, ça, c'est classique. Mm-hmm. Nous avons ici notre ami Pierrot, qui est psychologue, psychanalyste, qui va nous apporter un petit peu de lumière sur certains sujets d'un point de vue psy. Et nous avons le docteur Chon, le doc, qui est là, indéboulonnable, toujours là, classique.
Toujours, ça bouge pas.
Indéboulonnable. J'adore cette expression.
Donc, les gars, votre ressenti par rapport au paranormal, y a-t-il, croyez-vous aux énergies, croyez-vous aux fantômes, croyez-vous qu'il y a des gens là-haut qui nous regardent, qui peuvent être des âmes bloquées ici? Quel est votre rapport à tout ça, déjà? Pierre, d'un point de vue, sans parler psychologie, déjà, toi tout seul?
Moi tout seul, j'ai toujours été mitigé sur le sujet, et je pense que ça a probablement aussi fait partie des choses qui m'ont amené à étudier la psychologie, parce que finalement... On essaye de comprendre. Ce qu'on cherche, avant tout, c'est quand même des réponses. Mmh. Et le paranormal, c'est une grande question. Donc, je pense que... Ouais, c'est lié. Mais personnellement, non, j'y crois pas trop. Non, je suis assez cartésien.
Ok. T'essaies de toujours trouver une raison rationnelle à des événements, quoi.
Ouais. Par contre, je suis déçu à chaque fois que j'en trouve une.
Ouais, parce que t'as envie de garder ce petit truc de « ça peut exister ».
Ouais,
ça,
j'aimerais beaucoup. Il y a un pari de Pascal qui est assez intéressant et il en parle dans un de ses écrits. Pascal, c'est un philosophe. Et il dit qu'il fait que le pari que Dieu existe, parce que si Dieu existe pas, de toute façon, il perd rien. Et si Dieu existe, bah tant mieux parce qu'il est au paradis. Et je trouve que c'est un peu marrant de se dire qu'on fait le pari pascalien.
Mmh. C'est vrai, je suis assez d'accord avec ça. Mmh.
Donc j'aime bien le faire.
Ok.
Ok.
Docteur.
Écoute, moi personnellement, je suis un peu de la vie de tout le monde. Hein. J'adore cette phrase, je voulais la glisser comme ça, cadeau.
Ouais, c'est un truc qui veut rien dire, qui laisse un champ de possibilités immense.
Exactement. Non, à la base, je suis un cartésien, donc j'ai tendance à ne... pas croire en grand chose, tout ce que je ne comprends pas. Et je pense que ces dernières années, j'ai fait un petit virage. J'ai un peu retourné ma veste où je me suis dit que le non, c'était une réponse simple et limpide, alors que le oui, c'était une possibilité, une infinie possibilité. Donc, me dire que quelque chose n'existe pas, c'est être probablement dans le faux. Et puisque j'ai besoin d'être dans le vrai, je me dis qu'il y a sûrement une réponse qui existe et que je ne comprends pas. Et aujourd'hui, c'est la réponse à peu près toutes mes problématiques qui se passent, spirituelles ou non. Hein. Même quand je ne trouve pas quelque chose que j'ai posé à un endroit et qu'il n'y est plus, je pars du principe qu'il y a une infinie de réponses que je ne comprends pas.
Ouais. En fait, c'est un peu ça. C'est le truc, c'est. On peut, de toute façon, on peut ni prouver que ça existe, ni prouver que ça n'existe pas. Donc après, ça dépend des expériences de chacun. Moi, je pense qu'il y a, il y a trop de trucs qui. Enfin, pour moi, il y a pas de. Ça peut pas être le hasard. Il se passe trop de trucs. Il y a trop de trucs bizarres dans la nature, dans plein de choses, dans les rêves. Enfin, pour moi, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui. C'est pas possible. Pour moi, il y a forcément un quelque chose qu'on connaît pas. Et j'ai l'impression que c'est un peu le propre de l'homme de dire. Il faut le voir pour le croire, et si je peux pas le prouver, c'est que c'est non, c'est que ça n'existe pas.
C'est la question de la croyance. Il n'est pas question de savoir si ça existe ou que ça n'existe pas. La question de la croyance, elle se fixe justement sur un objet sur lequel la certitude ne peut pas se fixer. Donc la croyance que ça existe ou la croyance que ça n'existe pas, ça reste une croyance.
C'est vrai ça.
Et oui.
Si tu crois pas en Dieu, c'est une forme de croyance.
Dire qu'on est sûr que Dieu existe, ça a la même valeur que de dire qu'on est sûr que Dieu n'existe pas.
Mais même les gens qui ne croient plus en grand-chose, ils ont un nom maintenant, t'as vu.
Agnostique.
Agnostique, c'est hyper pratique, quoi. Je crois en quelque chose, mais je ne sais pas quoi.
Moi, je me définis comme agnostique.
Mais ça se voit, frérot. Il y a beaucoup de choses qui se...
Moi, je crois en une force supérieure, mais je ne crois pas en un dieu précis, tu vois. Mais pour moi, il y a une puissance dans l'univers, dans les énergies. Je crois aux énergies. On est fait d'atomes, on est fait d'énergie. Donc pour moi, je pense qu'il peut y avoir des résidus, des énergies résiduelles dans des lieux, dans des choses comme ça. Toutes les choses qu'on voit, généralement les gens qu'on entend, quand on entend des apparitions, des histoires comme ça, d'apparitions, de fantômes, de voix, de trucs comme ça, c'est souvent des gens, alors bon là je pars dans un délire hein, directement, mais c'est souvent des gens qui sont pas du tout là pour voir ça. Par exemple, les mecs qui font des vidéos YouTube, des trucs comme ça, de chasse aux fantômes, ils ne voient jamais rien. Parce que c'est Patricia Daré qui explique ça, dans une vidéo du Grand JD que je vous invite à aller voir. Patricia Daré, c'est une très grande médium que moi je crois à 100%, parce que c'était une meuf justement qui était très cartésienne. Son mari est avocat, je crois, elle a un métier très, très dans le mental, dans le contrôle, et pas du tout quelqu'un qui est illuminé, quoi, qui n'a jamais cru en rien du tout, qui n'est pas religieux ni rien du tout. Et ça lui est tombé dessus du jour au lendemain. C'est un jour en pleine nuit, elle a entendu une voix dans sa chambre qui lui dit « Réveille-toi, prends un stylo et note. » Elle s'est réveillée en mode... Elle a réveillé son mari, genre, il y a un truc et tout. Son mari me dit « Non, vas-y, ta gueule, rendors-toi et tout. » Elle essaie de s'en rendormir. Et là, « Oh, t'as compris ce que je t'ai dit ? Tu te réveilles, tu prends un stylo et tu notes. » Et là, elle a pété un plomb. Et du coup, elle s'est levée, elle a pris un stylo, elle a noté. Et là, son stylo, il s'est mis à écrire tout seul, des pages et des pages de trucs. Elle a été voir un psychiatre, un truc comme ça. Le psychiatre lui a dit... Elle a dit, soyez bien attentifs, parce que si ça arrive là pendant la séance, il va falloir que vous preniez des photos, que vous notiez tout ce qui se passe, etc. Et là, elle a senti le truc qui est arrivé. C'est arrivé pendant la séance. Le mec, le psychiatre était sur le cul. Et il lui a dit, écoutez madame, je suis désolé de vous dire ça, mais je crois que ce qui vous arrive là, ça fait partie du domaine où s'arrête le mien. Donc il a dit, malheureusement, moi je peux rien pour vous aujourd'hui. Ce qui vous arrive là, je ne peux rien vous dire à ça. Et bref, elle expliquait que elle, à chaque fois, les trucs, les apparitions, donc elle est sur un... On parle de fréquences, de trucs comme ça. C'est un peu comme une radio, en fait. On est tous sur une fréquence en particulier. Et elle était sur la fréquence des hommes de guerre. Elle voit que des hommes de guerre, des chevaliers, des gens. C'est elle qui a parlé à Napoléon. Elle a écrit un bouquin où elle parle à Napoléon. Elle a que des gens en lien avec la guerre. Et en fait, elle explique un truc, c'est qu'on peut faire venir... On sait qu'il y a un fantôme dans un château ou je sais pas quoi. On fait venir trois médiums. Il y en a que un sur les trois qui va voir quelque chose. Les deux autres vont rien capter, rien voir. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont pas sur la même fréquence. Et donc, elle expliquait les trucs, la plupart des apparitions, des trucs qu'elle a vus, c'était à des moments où elle n'était pas du tout là-dedans. Genre quand elle est en train de repeindre un mur chez elle ou un truc comme ça, parce que tu es dans un espèce de d'état d'hypnose, comme quand on est en voiture, qu'on regarde la télé. Il y a plein de moments où on est dans des états d'hypnose, et c'est des moments où on fait quelque chose de très mécanique, très machinal. Là, elle repeignait un mur, et d'un seul coup, elle a tourné la tête, elle a vu un mec édenté, en habit, avec une cotte de maille à sa fenêtre, enfin, elle a pété un plomb, tu vois. Et en fait, elle explique que la plupart des apparitions de gens qui sont même très cartésiens, qui ne croient en rien, c'est souvent quand on casse des murs, quand on fait des travaux, etc. Et ça s'explique parce que les murs des maisons, peu importe les murs, c'est des barrières physiques, parce qu'on ferme du froid, tout comme ça, mais c'est également des barrières émotionnelles, des barrières énergétiques. Et quand on a des maisons très vieilles, généralement, quand on casse des murs, on dit souvent « ouais, il y a une entité dans ce mur, ça tape dans les murs ». Enfin, c'est souvent les mêmes histoires qu'on entend. Et souvent, quand on casse des murs, c'est là qu'on libère des choses. Quand on casse une maison, on pète le sol, on découvre qu'il y a des tombes, des trucs en dessous. C'est souvent un peu les mêmes genres d'histoires, je trouve. Il y a eu une histoire à Saint-Quentin, je voulais en parler aujourd'hui, mais c'est vrai qu'elle a quand même beaucoup tourné cette histoire dans les trucs sur TF1, les histoires incroyables, machin. Le truc à Saint-Quentin, la maison qui saigne, vous avez déjà entendu parler de cette histoire ?
Non plus.
Une maison dans laquelle il y avait du bruit, il y avait des trucs bizarres, etc. Et un matin, les gens descendent et tous les murs de la maison commencent à saigner. ils ont envoyé ça faire des analyses, c'était du sang, du vrai sang. C'était pas de la peinture, c'était pas un gag, un truc, ils savaient pas. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fermé la maison pendant 3 semaines, ils ont mis de la farine partout au sol pour voir s'il y avait des traces de pas, de gens qui venaient la nuit faire des blagues, tu vois. Et ils sont revenus 3 semaines après, tous les murs en sang et aucune trace nulle part. Et en fait, après, ils ont démonté la maison, ils ont enlevé le sol et ils ont trouvé un cimetière militaire sous la maison. Et donc, il y avait encore ce délire de murs, de casser des murs, de casser le sol et de libérer des choses. Voilà. J'ai hyper... Je suis parti hyper loin, j'ai grave digressé. Je vais attendre.
Je me rappelle plus ce qu'on disait à la base.
La croyance.
Non, je rigole. Non, moi, j'aurais bien aimé avoir ton avis, Pierre, vu que tu as vu, on a quand même une...
Ouais.
Une explication assez intense sur une croyance au médium et compagnie, et toi étant cartésien de profession.
Cartésien de profession. Je suis pas sûr que je suis cartésien de profession. Non, c'est pas sûr. Mais en revanche, on a quand même tendance à trouver ce qu'on cherche. En réalité, d'ailleurs, on trouve que ce qu'on cherche parce que on cherche pas ce qu'on cherche pas, et donc on peut pas trouver ce qu'on cherche pas.
Oh, putain.
Donc forcément que quand il se passe quelque chose de bizarre, on a tendance à essayer de lui trouver une explication parce que l'humain, il est un petit peu non enclin à l'incertitude. C'est une position qui est pas agréable. Donc je pense qu'on aurait pu trouver des explications pour tout ça. Donc, et je pourrais tout détailler, mais là ça a été tellement long, je pouvais pas tout démonter un par un.
Comme je te dis, tous les mecs qui vont chercher du fantôme, ils trouvent pas. Et c'est ce que Patricia Daré dit au Grand JD, parce qu'il lui dit, mais attendez, moi je vais venir avec vous pendant les enquêtes, j'ai envie de voir ce que vous voyez, etc. Et il dit, pourquoi moi je vois rien? Et il lui a dit, mais parce que vous y allez en dans le contrôle, genre je veux voir du fantôme. Et là elle dit, ça peut pas marcher en fait. Et c'est pour ça qu'elle lui a expliqué le... Bah, c'est souvent quand on n'est pas du tout là-dedans, on fait complètement autre chose, et là, boum, on se prend un truc parce qu'on n'est pas dans le mental, dans le contrôle, de se dire je veux voir quelque chose, je veux. Enfin, elle dit comme ça, ça peut pas marcher en fait.
Bon, tu doutes bien que moi, en tant que psy, tu me dis j'entends des voix, etc. Le tableau clinique, il est assez rapidement fait.
Ouais.
Bon.
Mais n'empêche que c'est pas toujours.
Pour autant, on peut entendre des voix sans forcément. Voilà, mais bon.
Ouais. Et donc, est-ce que vous avez déjà vécu des choses dans votre enfance, des trucs bizarres, des, je sais pas, des objets qui se déplacent, des bruits de pas, des...
Ouais, moi j'ai quelques expériences. Alors, pas en étant enfant, je suis quand même d'une base cartésienne assez prononcée, mais y a un moment dans ma vie où j'ai pas mal habité avec des Congolais, et du coup j'ai capté qu'ils avaient une autre signification aux marches qui craquent. Tu vois.
Okay.
Moi, tu sais, c'était le bois qui travaille. Tu connais, dans les vieilles maisons, le bois travaille, t'entends les marches, le bois qui fait du bruit et tout. Et non, il y avait des colocs qui avaient une autre vision des bruits qu'on pouvait entendre, qui pensaient que c'était des esprits ou je ne sais quoi. Après, il y a pas mal d'histoires avec la maison dans laquelle j'habite. Okay. Puisque les premiers colocataires, il y a 5-6 ans, ils avaient voulu creuser le sol de la cave pour faire... une sorte de salle de concert pour écouter de la techno dans des caves comme ça. Et sauf qu'en creusant, ils avaient trouvé des os.
Okay.
Et généralement, les os dans une maison enterrée, c'est pas trop... Tu vois, tu te dis bon pas c'est une vache ou peut-être c'est un perroquet. Moi, j'étais pas là, donc je sais juste qu'ensuite, plus personne n'est allé à la cave et qu'à ce moment-là, ça commence à parler de fantômes dans la maison.
Okay.
Et en ayant habité 5 ans dans cette maison, en effet, j'ai pu que constater plein de choses étranges. Mais autant dans mes perceptions que dans les gens qui habitaient chez moi, que certaines personnes qui soi-disant ressentent des esprits et quand ils entrent chez moi me disent « Ah, il y a un problème avec ta maison.
» Bah, surtout quand plusieurs personnes sont d'accord, quoi.
Ouais.
Quand plusieurs personnes qui se sont pas du tout concertées se disent « Ah putain, mais toi aussi t'as entendu ça dans telle pièce ou dans tel truc ?» Là, c'est vrai que ça te met un peu le doute, quoi. Tu dis, putain, merde, c'est pas que moi, j'ai pas juste phasé un soir. Quand t'as plusieurs personnes qui sont d'accord sur le même truc, c'est vrai que c'est perturbant, quoi.
De ouf. Et il y a une nana, un jour, qui a pas voulu rentrer chez moi. Okay. Elle m'a dit, non, rangez votre baraque. Là, elle est pas rangée et je ressens une présence pas la bonne.
Okay.
Et cette même nana, elle est revenue. Comme par hasard, j'étais pas là, parce que je suis quand même le plus cartésien de la bande, mais il y avait tous les autres. Elle est revenue et elle a appelé l'esprit et apparemment, bah, il descendait les marches et tout. Elle a parlé avec lui et apparemment, bah, c'était un homme gentil qui, ça va, qu'on dérangeait pas trop, mais on mettait trop de musique apparemment. Tu vois,
okay.
Voilà. Ça fait beaucoup de « apparemment », mais j'étais vraiment pas là, donc je pourrais pas le témoigner moi-même.
Intéressant.
Pierre, des petites expériences, des trucs bizarres, jamais ?
Non, rien. Non.
Même dans la famille, des histoires de famille.
Ouais, il y a eu des familles, enfin, il y a eu des expériences dans la famille, mais en fait, finalement, quand on prend un peu de recul, on trouve toujours d'autres possibilités pour expliquer les choses. Donc, non, rien de sûr. Bien sûr.
Moi, j'ai un truc qui m'a marqué, dont je me souviens vraiment très bien quand j'étais petit. Alors, bon, pareil, là, on va parler je vais dire ça un peu d'un point de vue spiritualité, mais souvent, donc c'est encore Patricia Daré qui dit ça dans l'interview avec le grand JD, où elle dit en fait tout le monde a déjà vu des fantômes. Et généralement, on voit des fantômes quand on est enfant, parce que le cerveau, il est encore à moitié là-haut et il n'est pas encore totalement incarné sur Terre. Donc là, on part sur un délire très spi, je vois que Pierre, il me fait des gros yeux. Mais en fait, elle dit jusqu'à 7-8 ans, on parle de l'âge de raison, et en fait, elle inclut aussi ça dans l'âge de raison, c'est que le cerveau est avant pas tout à fait encore ici et encore un peu là-haut, et que quand jusqu'à 7 ans en fait on voit des fantômes, on voit des gens, mais on capte pas, tu vois, on voit quelqu'un marcher dans la cour de la récré ou de, mais on relève pas parce qu'on se dit juste bah ouais, il y a un monsieur qui est là, et puis c'est tout quoi, on capte pas. Et moi il y a un truc que j'ai vécu plus jeune dans la maison, la première maison dans laquelle je suis né, c'est que c'était une maison avec un étage, et j'étais au milieu de l'escalier, je montais à l'étage, en fait je cherchais mon frère. Et quand on était à la moitié de l'escalier, il y avait un palier qui desservait les chambres. Et mon frère, donc dans sa chambre, il avait une mezzanine, donc avec un autre escalier qui montait sur une petite mezzanine. Et donc j'arrive à la moitié de cet escalier, je penche la tête et je l'appelle. Je fais Thomas, je l'appelle. En fait, non, ça y est, je me rappelle. Avant de l'appeler.
Ça commence comme ça, les mythos.
Toujours.
En fait, je monte et je vois dans l'escalier de sa chambre, je vois une ombre qui monte les marches. Et donc je l'appelle, je fais Thomas. Et là, mon frère me répond derrière moi, en bas de l'escalier. Il me fait « Ouais, quoi ?» Il arrive en bas derrière moi. Et en fait, toute ma famille était en bas. Toute ma famille était en bas. Et donc, et là, j'ai phasé. Je me suis dit « Mais c'est quoi ce... C'est qui, en fait, là-haut ?» Tu vois. Et j'ai pas cherché à comprendre. Souvent, j'ai bugué, tu vois. J'ai fait « Ok, j'ai fait demi-tour, puis je suis allé voir mon frère. » Mais ce truc-là, m'a marqué. Je m'en souviens de vraiment voir une silhouette d'homme qui monte, juste son ombre, en fait, contre le mur. Voir monter les escaliers. Je l'appelle mon frère en me disant « Bon, bah, c'est lui. » Et mon frère me répond dans mon dos, ça m'avait marqué. Après, j'ai vécu d'autres trucs étranges plus récemment dans des rêves, des choses comme ça, où j'ai fait des rêves pas prémonitoires, mais j'ai fait un truc qui est assez chelou, c'est que j'ai un ami de mes parents qui est décédé il y a genre 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans. Un monsieur que je connaissais un petit peu, j'avais déjà fait des repas avec mes parents, où j'ai déjà croisé comme ça quelques fois dans des soirées et tout. Mais sans plus, quoi. C'est pas un gars que j'ai vu depuis que je suis enfant. Non, voilà, c'est un gars que je connais comme ça. Donc pas d'affinité plus que ça. Enfin voilà, je le connais pas plus que ça. Et donc j'apprends son décès. Et donc trop bizarre, une semaine après son décès, donc mes parents me disent « Ah ouais, un tel, il est mort. » Je dis « Ah putain, merde, c'est con et tout. » Et puis voilà, c'est tout, quoi. Enfin, ouais, voilà, désolé, c'est con, machin. Et une semaine après ça, je fais un rêve. Et dans ce rêve vraiment plein de symboliques, très bizarre, on est dans un couloir tout blanc. Et moi, je suis contre le mur de ce couloir. Et là, il y a... Et donc, ce monsieur, il est, lui, sur un petit piédestal. Il est sur une petite marche, un peu en hauteur. Donc déjà, il y a le truc de... Il commence à monter, il est dans la hauteur, et il peut aller au ciel. Enfin, on peut imaginer ce truc-là. Et il y a toute la bande de mes parents avec cette bande de copains-là. Toute leur bande de copains, ils sont genre 10-15, un truc comme ça. Ils sont tous en train de marcher dans ce couloir, en train de rigoler, de se chamailler, de ah, machin, ils passent un bon moment, ils marchent. Et moi, je suis avec ce monsieur. Et tous les gens ne le voient pas. Personne ne le voit. Donc, et ne me voit pas non plus, en fait. On est tous les deux invisibles, le monsieur qui est mort et moi. Et donc, ils passent tous devant lui, comme ça, en chahutant, en rigolant, etc. Et il y a sa femme aussi, à ce monsieur qui est là. Et lui, il est comme ça, et il dit rien, et il a un petit sourire, et il les regarde tous passer comme ça, devant le... Et là, moi, j'attrape le poignet de sa femme et je lui dis « Écoute, ton mari est là. Il va bien. Et voilà, je veux juste vous dire qu'il va bien et qu'il est content que vous soyez là. » Fin du rêve. C'est tout. Et donc, le lendemain, je raconte ça à ma mère. Et donc, je me souviens très bien de tout. Tu vois, des détails, etc. Le lendemain, je raconte ça à ma mère. Je lui dis « Bah voilà, je l'ai vu et il était là. » Chemise bleue à fleurs, chino beige et petite basket blanche. Et là, ma mère, elle me regarde, mais... vraiment littéralement comme si elle avait vu un fantôme pour le coup, et elle hallucine, en fait elle me dit qu'ils l'ont enterré la veille, donc, et moi je n'étais pas au courant, j'ai fait ce rêve là le jour de son enterrement, et elle m'a dit il a été enterré dans cette tenue, chemise bleue à fleurs, chino beige, basket blanche.
Non, j'avoue, c'est fort.
Donc, comment interpréter ce rêve? J'en ai aucune idée. Juste la symbolique de, il est un peu surélevé par rapport aux autres. Il voit tous ses potes passer. Lui, il est serein, il est apaisé. Il les voit tous passer avec un petit sourire. Il est content. Mm. Moi, qui attrape sa femme en disant, bah écoutez, voilà, il est là, il est content. Mm. Ça a duré 30 secondes mon rêve, tu vois, mais vraiment trop bizarre, quoi.
Ouais, de fou, complètement. C'est très surprenant.
Ouais. J'ai jamais su trop. Après, peut-être, je me dis, hein, j'ai peut-être un truc à creuser là-dedans. Peut-être que non, je peux parler aux morts.
Je pense qu'il n'y a rien à creuser. Je pense que ça dépasse complètement notre compréhension. Déjà, comprendre que ce n'est pas anecdotique. Ouais. Moi, j'ai une histoire, enfin, pas similaire à la tienne, mais qui concerne un rêve aussi, que je n'ai jamais réussi à interpréter. Et que je pense qu'a été une des premières fois où j'ai compris qu'il y avait une synchronisation de plein de choses que je ne maîtrisais pas. Je vais vous recontextualiser. J'ai 17 ans, j'habite chez mes parents. Mmh. Et je suis, comme sûrement beaucoup d'ados de 17 ans, en conflit avec mes parents. Je leur parle peu et j'ai peu envie de leur parler. Et il y a un soir, enfin je me réveille un matin et j'ai rêvé que j'avais un frère jumeau. Et trop cool le rêve. Et je ne sais pas pourquoi ça me met de bonne humeur. Du coup, je descends dans la cuisine et je parle peu avec mes parents et je ne prends pas de petit déjeuner. Et là, je ne sais pas pourquoi, truc que je n'ai jamais fait de ma vie, je leur dis « Hé, hier, j'ai fait un rêve et j'aurais dû avoir et j'avais un frère jumeau. » Et je ne raconte jamais mes rêves de base, ni encore moins à mes parents, qui sont des personnes à qui je ne parle pas à ce moment-là. Et je vois ma mère qui devient toute blanche et qui me dit « Bah, t'aurais dû avoir un frère jumeau. » Et bam, information comme ça, que j'ai mangé. Et puis moi, j'ai bougé, j'étais en retard pour aller au lycée comme... comme un jour normal de semaine.
Ça, c'est dingue.
Wow. Et du coup, j'ai jamais erré à aborder ce sujet-là avec elle, à part ce jour où j'avais 17 ans. Et où... J'en ai parlé avec mes frangins. Certains étaient au courant, les plus grands. Mais voilà.
Ça, c'est dingue.
Ouais. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, je suis content de ne pas avoir des frères jumeaux. Tu vois, le fait que c'est rendu ça possible, je dirais que je me suis vraiment senti avec un... Il y aurait pu avoir un boug qui me ressemble. Avec mon talent et mon charisme, et je l'aurais peut-être pas toléré.
Ouais, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup d'études sur les frères jumeaux qui ont été.
Ça, c'est dingue parce que ouais, il y a des connexions quoi. On dit qu'ils font les mêmes rêves, que tu sais, il y a des trucs comme ça. Où... C'est spécial. Moi j'y crois. Hein. Moi, pour moi, il y a un truc.
Moi, c'est la première fois où je me suis dit ouais, il s'est passé un truc bizarre là. Ouais, je suis parti au lycée comme ça en courant, parce que je courais à l'époque pour aller au lycée. Truc de pauvre. Après, tu t'achètes un vélo. Et non, je suis arrivé au lycée, j'étais en mode mais qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu vois, genre passé une dinguerie. Et je suis quelqu'un de très très cartésien, donc tout ce qui m'a paru étrange était vraiment étrange, puisque sinon j'arrivais rapidement à trouver une explication. Et là, rien que le fait que je me sois réveillé de bonne humeur pour un rêve et que je l'ai raconté à mes parents le matin, wow, c'était trop d'infos.
T'as jamais essayé de tester des trucs pour essayer de prendre un contact
Là, oui, mais tous les jours.
Avec ton frère jumeau, je veux dire.
Avec mon frère jumeau? Non, alors attends, écoute, parce que ça va être le deuxième truc marrant. Il y a 2 ans, du coup, en avançant dans cette quête spirituelle où ces dernières années, j'étais beaucoup moins fermé, je suis allé vers une ouverture... de la compréhension du spirituel, de l'énergie et tout. Et j'avais un copain depuis longtemps, enfin depuis pas mal d'années, et il m'avait déjà dit qu'il était sensible à l'énergie. En mode, il faisait partie des gens qui m'avaient dit que chez moi, il y avait une présence et tout. Mais sans me dire qu'il s'y connaissait mieux que ça. Et en fait, je me suis rendu compte via un pote que ce gars-là pouvait communiquer avec les esprits. Qu'il avait ce don-là, juste dans sa famille, c'était connu, reconnu, et sûrement qu'il y avait pas mal de gens dans sa famille qui pouvaient un peu communiquer avec les esprits, mais lui, il était reconnu comme quelqu'un avec une fluidité particulière. Et du coup, mon poteau a été en séance chez lui, il a été bouleversé par cette séance, et il m'a dit, mais il faut vraiment que tu essayes, et puis moi, qui suis cartésien, j'ai besoin de voir, j'ai besoin de toucher, et du coup, j'étais trop chaud pour une séance. Donc, je suis allé chez lui, et vraiment un gars en qui j'ai 100% confiance, qui est pas du tout du genre à raconter des histoires ou quoi. Et bah écoute, j'ai été choqué. Genre le gars, il a déplacé une table de son salon à une pièce en touchant une table à 2 doigts. Mais moi, je lui dis, mais pour tirer ta main, je vais faire moi-même, je vais essayer, tu vois. Je mets ma main et tu peux pas bouger une table à une main. C'est pas possible en fait. Et le gars avec 2 doigts comme ça, la table le suivait.
Et c'était sa table.
C'était
une table.
C'était un petit guéridon spécial.
Okay.
Un guéridon.
Ouais. C'était un guéridon. Je pense que c'est un mot que tu utilises que pour ce genre de truc-là.
Exactement.
Pour des pratiques occultes, le guéridon. Ouais, c'était un petit guéridon dans son salon. Il avait une petite pièce spéciale, parce qu'apparemment, c'était mieux dans cette pièce. Et tac, il mettait deux doigts sur la table et elle le suivait du salon jusqu'à là. Et moi, ok, vas-y. Ok, déjà, ça, c'est bizarre. Après, on arrive dans une pièce, on était quatre, deux amis et lui, et il nous explique un peu la procédure de il y a des esprits qui vont vouloir parler, on va vite savoir à qui ils veulent parler, parce que le guéridon va s'approcher des personnes qui sont concernées, et ensuite on peut poser des questions, ils y répondent.
C'est le principe du verre, quoi, le truc du verre qu'on fait, moi je l'ai fait beaucoup ça.
Moi j'y connais absolument rien, donc je connais pas d'autres expériences, c'était ma seule expérience vraiment, on va dire, professionnelle, entre guillemets, quoi, avec un gars trop fort. Et lui, il fait ça tout seul dans son coin, vraiment un gars chaud, quoi. Et du coup, j'ai vu des esprits prendre possession de la table et essayer de parler avec les différents acteurs de ce petit moment. Et il y a un ancêtre qui est venu parler avec moi.
Et il t'a dit quoi ?
Il m'a dit... Alors, c'était très dur de communiquer vu qu'on était quatre. Il y avait des esprits qui essayaient vraiment de prendre le contrôle. Et dont la grand-mère du poteau, avec qui il avait l'habitude de communiquer, elle avait l'habitude... Du coup, elle prenait beaucoup de place, gros caractère, et tu sentais. Mais c'était marrant comment tu sentais les différences de caractère selon les mouvements de la table. Mmh. Et moi, j'ai un ancêtre, il m'a dit que c'était un ancêtre paternel. Il m'a dit qu'il s'appelait Gabin.
C'est un joli prénom.
T'as été chercher après, arbre généalogique, alors, machin ?
Non, parce que du côté paternel, j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais j'ai demandé à mon père, qui m'a dit que ça ne lui disait absolument rien.
Bon.
Okay. Mais c'était trop vif, tu vois, il y a un prénom qui sort.
Oui.
Et le fantôme, il fait l'alphabet, et tu comptes, ça donne G, A, B, I, N, c'est pas un hasard, enfin, tu vois, genre c'est trop. Mmh. Et ça tape vite. Le poteau, ouais, il est habitué, il sait compter. Mais en vrai, moi, je compte lentement ensuite sur mes doigts et je vois que lui, je suis habitué, ça tape, ah, c'est un G, A. Mmh. Et bah, vas-y, voilà, c'était trop intense parce que j'ai vu aussi les interactions des esprits de mes poteaux avec eux. Donc moi j'avais peut-être l'interaction la moins intéressante, mais ça, j'ai vu et je peux plus faire comme si je n'avais pas vu.
D'accord, ouais, c'est une expérience qui t'a ouvert là-dessus.
Je l'étais déjà puisque je voulais vivre l'expérience.
Oui, 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 il y a de ça aussi, ça joue.
Ça joue, mais là il y a eu trop de réponses d'un coup.
Mmh. Oui, en tout cas de manifestation.
Ouais.
Une manifestation, c'est pas forcément une réponse. En revanche, c'est vrai que ce guéluron avec son guéridon, c'est quand même bizarre. C'est vrai.
T'avais un petit décryptage de nos rêves, Pierre, tu m'as dit.
Ouais, je... Oh, j'ai crié. Je me disais... parce qu'en fait, le rêve, je vous en ai déjà parlé la dernière fois. Vous vous souvenez que je vous ai parlé?
Oui, il y a un an.
Il y a un an, jour pour jour, on était ici et je vous parlais du rêve. Et je vous disais que le rêve, il avait plein de mécanismes et que c'était hautement symbolique et que, etc., 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 que c'était une lecture de l'inconscient, etc. Bon, je ne vais pas faire d'interprétation sauvage, on va faire quelques hypothèses sur ce que ça peut vouloir dire, cette scène de couloir, cette scène avec des gens. Déjà, tu apprends que quelqu'un est mort et tu rêves de lui juste après. Bon, soit effectivement, tu as rêvé de lui mort, soit...
Une semaine après, hein, c'est pas... Un...
Oui, c'est juste après. Soit tu as rêvé effectivement d'un fantôme, soit ton esprit a essayé de représenter quelque chose qui serait du côté de la mort. Peut-être que cet homme, c'était juste une représentation de la mort. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est assez troublant dans ton rêve, c'est que tout le monde passe devant toi, mais personne ne te voit, et toi, tu es avec la mort.
Mmh.
Ça peut peut-être dire quelque chose.
Lui,
que
lui
tu
il savait.
Peut-être
il
c'est
savait.
Toi la mort.
Peut-être que c'est toi la mort. Seulement, tu ne peux pas la mettre en toi, la mort.
Mais j'étais là en messager, menace. Parce qu'après, j'ai attrapé la main de sa femme en lui disant, bah, écoutez, je suis avec lui, je sais qu'il vous voit. Vous le voyez pas, mais là, il vous voit, il est content que vous soyez là. Et, tu vois, j'étais en messager, en fait.
Mmh. Non, mais tu peux très bien être ton propre messager.
Peut-être, ouais.
Tu vois, ça veut quand même dire quelque chose. Après, il y a quand même une scène qui se passe. Des gens qui passent devant toi, qui ne te voient pas. La mort qui est avec toi, mais qui n'est pas en toi. La mort, c'est difficile de l'introjecter, la mort, parce que souvent, on la représente à l'extérieur de soi. C'est difficile d'introjecter la mort.
J'aimerais bien revenir sur le terme introjecter, parce que c'est la première fois de ma vie que je l'entends. Mmh. Et j'aime bien apprendre des nouveaux mots, du coup, introjecter, messieurs.
Ouais.
Je peux avoir une petite définition de introjecter ?
Bah, injecter à l'intérieur de soi.
Introjecter, incroyable.
Introjecter. Donc, moi, j'ai un pote en soirée, il fait des soirées dans des caves, il fait ça aussi.
Il introjecte ?
Il introjecte des produits bizarres. Hein.
C'est un introjecteur ?
Ouais. Là, on l'utilise beaucoup pour des concepts. On dit qu'on peut introjecter une image, une personne, un concept, quelque chose en soi. Ouais. Souvent, c'est la mort. ou une personne qui la représente.
Ok.
En tout cas, toi, t'es dans ce qui n'est pas visible. On te laisse, tu vois, sur le côté dans ce rêve. Il y avait des portes ou pas dans le couloir?
Je crois pas.
Donc c'était pas un corridor. Ça veut dire quelque chose aussi.
Mais couloir blanc, lumineux au fond. Tu vois, il y avait quand même le truc de.
Après, le rêve, il est spécifique à la personne. Je veux dire, on peut pas interpréter un rêve sans. Enfin, c'est à la personne d'interpréter le rêve. Les représentations qui habitent ce rêve, elles sont en général condensées. C'est-à-dire que, tu vois, plusieurs choses peuvent faire une chose. Par exemple, je peux rêver d'une tasse qui se mélange avec Denis. Enfin, tu vois. Y a...
Moi, ouais. J'allais dire que je me suis déjà mélangé avec une tasse, mais ça n'a rien à voir.
Enfin, quoi qu'il en soit, y a une lecture à tout ça. Et je pense qu'elle est intéressante à faire, même qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Et de toute façon, la plupart du temps, c'est hautement symbolique. Même ces histoires de fantômes, ces histoires de légendes, elles sont du côté du symbole.
Ouais. Ok. Pour terminer, j'avais un petit témoignage que quelqu'un m'a envoyé sur Instagram. Petit témoignage de phénomène paranormal. Donc on va terminer là-dessus, on va y réagir ensemble. On va s'écouter ça. Hop, c'est Zoé qui nous a envoyé son histoire. Une histoire qui lui arrivait
Vas-y, Zoé.
Plus jeune.
Alors, on voilà, t'écoute.
C'est parti.
En gros, mon arrière-grand-mère est décédée il y a pas mal d'années. Elle jouait beaucoup au piano et c'est elle qui m'a donné l'envie de jouer au piano. Et après, j'ai joué au piano par la suite quand j'étais jeune. Et ma mère aussi joue au piano. En fait, c'est un truc un peu de famille du côté de ma mère. Et en gros, un jour, j'étais chez moi et j'étais avec deux amis à moi qui étaient là-haut dans ma chambre. Et moi, j'étais en bas et mon piano est dans mon salon. Et en fait, mes potes, elles ont entendu jouer du piano. Donc elles pensaient que c'était moi parce que moi je joue du piano. Et en fait, quand je suis remontée dans ma chambre, elles m'ont dit c'est toi qui jouais du piano et tout. Et je leur ai dit que non, c'était pas moi. Et moi qui étais dans les toilettes juste à côté, je n'ai même pas entendu le piano. Et donc après, on en a parlé pendant une heure, elles me croyaient pas. Genre elles me disaient que je mentais, etc. Et je leur ai assuré que absolument pas, j'avais jamais joué de piano. Et donc je leur ai un peu demandé qu'est-ce que c'était le morceau, etc. Elles n'arrivaient pas à me décrire. Et quand ma mère est rentrée, on lui a expliqué la situation. Et elle, qui croit beaucoup au paranormal comme moi, qui suis énormément dedans, on a tout de suite pensé que c'était mon arrière-grand-mère, forcément. Et donc, quand ma mère est rentrée, je lui ai demandé de jouer les morceaux que mon arrière-grand-mère lui avait appris pour savoir si ça correspondait aux morceaux que mes potes avaient entendus. Et en fait, elle a joué un premier morceau et mes deux potes ont dit non, c'est pas ça. Et elle a joué un deuxième morceau que mon arrière-grand-mère lui avait apprise. Et toutes les deux, en même temps, elles ont dit « bah oui, c'est ce morceau-là, en gros ». Et elles avaient des frissons et tout. Forcément, ma mère, elle a commencé à être hyper émue parce qu'elle a direct compris que c'était mon arrière-grand-mère. Et sachant que j'ai une de mes deux amies qui est vraiment hyper terre-à-terre, hyper cartésienne et qui y croit pas du tout, et qui était elle-même choquée de l'histoire et qui comprenait pas ce qui s'était passé. Et depuis qu'elle est décédée, on a plein de petits signes comme ça. Le jour de l'anniversaire de ma mère ou du mien, on a souvent la radio qui s'enclenche toute seule et ça joue et c'est une musique de Chopin alors que c'est sur une radio qui n'est pas du tout, qui passe pas du tout du Chopin. Alors que Chopin, c'était l'artiste préféré de mon arrière-grand-mère. Et pareil, moi, mon anniversaire, j'ai senti son parfum. Dans mon salon, vraiment, de façon très très forte, on le sentait à mort, alors que ça faisait pas mal d'années qu'elle était décédée. J'espère que ces anecdotes pourront t'aider pour ton podcast.
Bon, c'est troublant.
Voilà, donc on a deux choses. On a le piano qui joue tout seul, le morceau que sa grand-mère jouait habituellement, la radio qui s'allume avec le Chopin qui joue pareil, qui est l'artiste préféré de sa grand-mère, et on a le parfum. Il y a beaucoup d'histoires avec les odeurs. Du paranormal, odeur très forte de parfum qui arrive. Et là, le jour de son anniversaire, elle sent le parfum de sa grand-mère qui est là. Alors que, enfin,
c'est vrai que c'est troublant.
Ouais.
Ça pousse à y croire, tu vois.
Chopin, c'est beaucoup joué. Hein.
Ouais, mais bon,
les fantômes ou
si la radio
les gens normaux,
par tout le monde.
Si la radio s'allume et que t'es sur Skyrock ou Energy, que c'est du Chopin, tu vois, comme elle dit, c'est des radios qui jouent pas du tout ça normalement, quoi.
Non, bien sûr.
Et puis la radio qui s'allume toute seule, quoi. C'est ton anniversaire, tu vas souffler les bougies, tac, la radio elle s'allume, Chopin, hop, tu sens l'odeur de parfum de ta grand-mère.
Et toi, tu cumules tout en même temps.
Non, pas forcément, mais je veux dire, c'est quand même.
Non, j'avoue
c'est
que.
C'est quand même troublant, quoi.
Il y a du parfum qui joue au piano.
Putain. Non, elle a joué la musique du parfum.
Et toi, t'es tombé dans le piano. Ok, rien à voir. Non, mais en vrai, je pense que ce genre de situation, ça te pousse forcément à croire au spirituel et du moins au paranormal. Et les personnes qui n'y croient pas, je pense qu'elles n'ont pas encore eu assez de manifestations beaucoup de nouveaux croyants sont d'anciens cartésiens. Retiens bien ça, Pierre.
Ouais, non, mais c'est vrai. Après, deux choses à noter quand même, c'est que elle nous dit quand même, moi j'y crois à fond, et ma mère qui Exactement. Est très dans le paranormal, machin.
Elle nous met au parfum.
Elle a tout de suite bien joué. Elle a tout de suite senti que c'était ma grand-mère, ma mère était hyper émue, machin. Mais on a une deuxième chose aussi, c'est que ces deux potes qui étaient là, très cartésiennes, très terre à terre, et qui, elles, étaient en mode frisson, elles ont toutes les deux capté le même truc, elles étaient raccord, quoi.
Ça, c'est vrai que c'est troublant. Après, c'est vrai que pour le reste, on peut l'expliquer relativement facilement. Donc bon.
Le parfum, par exemple, est-ce que tu penses que ça peut être une odeur qu'on a nous-mêmes dans notre nez
Ouais, ça pourrait très bien être une hallucination olfactive, quelque chose comme ça. Ouais.
C'est le truc qui a le, qui a le plus attrait à la mémoire, le parfum, enfin l'odeur, l'odorat.
Pas, je l'ignore vraiment.
Il me semble qu'on m'avait dit ça, que c'était des cinq sens. L'odorat, c'était le truc qu'on avait le plus sur la mémoire. Des fois, des odeurs vont nous rappeler notre ouais. salle de classe de maternelle ou le parfum d'une maîtresse en particulier ou des odeurs de ville.
Hall d'immeuble, moi vraiment. Ouais. J'ai vraiment des petites madeleines de Proust sur des halls d'immeubles régulièrement. Ah, oui. Ça me rappelle mon premier hall d'immeuble.
Moi, c'est l'odeur du jasmin.
Ok.
On n'avait pas le même hall d'immeuble, je pense.
Non. mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant. Après, il ne faut pas oublier non plus ce que j'ai dit au début. C'est-à-dire que là, on sent quand même qu'elles sont vachement focus là-dessus et sur ce souvenir-là, et que manifestement, elles cherchent aussi, de manière inconsciente ou implicite, des signes un peu partout. Moi, si je cherche des signes de Claude François dans la rue, je vais en trouver.
Peut-être.
Je vais en voir des Claudettes, c'est sûr.
Moi, je cherche des signes, des numéros gagnants du loto.
Ah bah voilà.
Et pour l'instant, j'ai pas bien cherché.
Non, mais je veux dire que quand on passe sa perception à la passoire de quelque chose de tout à fait particulier comme ça, c'est normal qu'on ait tendance à voir des choses et pas d'autres. Quelqu'un qui fait du skate et qui se balade dans la rue, il va voir des rampes à rider. Quelqu'un qui fait pas de skate va pas les voir.
C'est vrai. Moi, je vois beaucoup de kebabs.
Et voilà.
Je sais pas s'il y a un rapport avec.
Le paranormal
okay, des kebabs, des broches à kebab qui se coupent toutes seules. J'ai senti l'odeur du kebab dans mon salon. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on va clore cette première partie d'émission. Une petite interlude musicale pour nos auditeurs sur les antennes de Radio Campus. Pour YouTube, il n'y a pas, parce que sinon on se fait striker.
Comme d'hab.
Donc, petite interlude musicale pour nos auditeurs de Radio Campus. J'espère que tout se passe bien chez vous, dans votre salon, dans votre voiture, au travail. On va vous proposer un petit mash-up que j'ai découvert il y a quelques semaines, quelques mois. Un petit mash-up entre Gorillaz et Snoop Dogg. Voilà, rien de plus à dire sur ce titre. Un mash-up, je ne sais même pas qui l'a fait, ce mash-up, c'est pas écrit. Voilà, ça s'appelle Green is Good, Gorillaz et Snoop Dogg. Petit mash-up, c'est parti,
on se retrouve tout de suite.
Glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. From the depths of the sea, back to the block, Snoop Doggy Dog, funky, yet the doc went solo on that ass, but it's still the same. Long Beach is the spot where I serve McCain. Follow me, follow me, follow me, follow me, but don't lose your grip. Nine trizzies, they is it for me to fuck up, shit. So I ain't holding nothing back, and motherfucker, I got five on the 20 sack. It's like that, and as a matter of fact, cause I never hesitate to put a nigga on his back.
Yeah, so peep out the manuscript. You see that it's a must we drop gangsta.
What's my motherfucking
shit
name?
Yeah.
I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, but not for long. The future is coming on. I ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine
In a bag I'm useless, but not for long. The future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on.
It's the bow to the wild, creeping and crawling, Yiggy get yolin', Snoop Doggy Dog in the motherfucking house like every day. Dropping shit with my nigga Mr. Dr. Dre. Like I said, niggas can't fuck with this, and niggas can't fuck with that shit that I drop, cause you know it don't stop. Mr. 187 on the motherfucking cop. Tick tock, not with a Glock, just some nuts in a cop. Robbing motherfuckers, then I kill them blood cots. And I step through the fog and I creep through the small, cause I'm Snoop Doggy, Doggy, Doggy.
Et nous sommes de retour à l'antenne sur Radio Campus. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment en musique. C'était Gorillaz et Snoop Doggy Dogg. Nous allons enchaîner tout de suite avec la chronique de Pierrot.
Ouais, ce qui est assez intéressant parce qu'on parlait justement de foi. Et bon, figurez-vous qu'on ne s'est pas concerté, mais vous allez voir, on va parler de foi. Est-ce que tu peux envoyer, s'il te plaît ? Domaine de la foi. Et ça, c'est une phrase hyper intéressante de Jacques Lacan à la conférence de Louvain. Lacan, c'est un psychanalyste français assez connu, un peu controversé, mais relativement intelligent quand même, faut le dire. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous ?
Est-ce que tu peux redire la phrase, s'il te plaît ?
La mort est du domaine de la foi.
Bah, je peux que être d'accord avec Lacan. Enfin, ce que tu disais tout à l'heure, la mort, c'est une croyance, tu vois. Si tu vois la vision de la mort en Europe et la vision de la mort en Amérique du Sud, par exemple, tu vois bien qu'il y a une vision de la mort qui n'est pas célébrée de la même manière. Il y en a, ils célèbrent les enterrements en Europe. J'imagine qu'on s'habille en noir, on va à l'église, on pleure. En Amérique du Sud, on fait la fête, on met des masques, et il y a de la musique et on danse. Et j'imagine que sur d'autres continents, on aurait d'autres manières de célébrer. En Inde.
En Inde, ils entassent les cadavres, ils y foutent le feu, et puis ils en ont rien à foutre.
Ils font un barbecue, quoi. Non,
ouais, c'est ça. Parce qu'ils pensent à la réincarnation, donc eux, ils s'en foutent, tu vois.
Alors, ça tombe bien que vous parliez un petit peu d'ethnographie, enfin d'ethnologie. Parce que je vous en parlerai après, justement. J'ai dégoté 2-3 petites pratiques qui sont intéressantes. Mais en ce qui concerne la phrase de Jacques Lacan, lui, il parle bien de votre mort à vous. Celle des autres, on s'en fout. Celle des autres, on y croit, en fait. La mort des autres, elle est toujours vraisemblable parce qu'elle est celle des autres, et pas la soi. Enfin, pas la sienne. C'est plutôt le fantasme d'immortalité dont parle Lacan, là. Quelque chose qui serait de l'ordre du... En fait, inconsciemment, au fond de nous, on n'y croit pas qu'on va mourir.
Moi, j'ai le sentiment contraire. J'ai l'impression que je me prépare toute ma vie à ma mort. Et justement, j'ai la sensation que mon moyen d'accéder à l'immortalité, c'est à travers l'héritage que je vais laisser, tout le patrimoine culturel, tous les humains dont j'aurais changé potentiellement les trajectoires et dont j'aurais une empreinte sur leur vie. C'est un peu ma manière de me dire que je serai immortel par toutes mes bonnes actions, quelque part.
C'est bien ce que je dis. Finalement, la mort propre, en cela qu'on essaye de faire tout ce qu'on peut pour survivre à notre propre mort, et en ligne de mire, c'est quand même l'art et les enfants. Souvent, les enfants, quand même, c'est finalement le prolongement de nous-mêmes dans l'espace-temps, dans l'humanité. En revanche, ce fantasme de l'immortalité, il est constitutif. En psychanalyse, on dit ça. On dit qu'en fait, l'humain se bâtit autour d'un manque fondamental. Et ce manque fondamental, on l'appelle la mort, on l'appelle vivre, on l'appelle mourir. On essaye de lui donner une face humaine, finalement. Mais c'est plus que la mort. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire, qui est de l'ordre de l'indicible. Une sorte d'abîme, quelque chose autour duquel on se serait bâti avec le temps et comme on peut autour de ce manque. Chez Heidegger, c'est un philosophe allemand qui a un peu mal terminé sa vie à cause du nazisme, mais bon, il avait développé quelque chose d'assez... Il avait développé un concept...
On lui en veut pas.
Non, il a développé un concept relativement intéressant et tout à fait parlant pour expliquer la création de l'esprit humain et son agencement autour de ce manque fondamental. Écoute-moi bien. L'humain est bâti un petit peu comme un potier bâtirait un vase. C'est-à-dire qu'il se construit en créant un contenant, mais en créant ce contenant, il crée en même temps le vide. Tu comprends ? Le psychisme humain s'articule autour du vide. Et on fait tout ce qu'on peut pour pas avoir à regarder à l'intérieur de l'abîme. L'art, la beauté. D'ailleurs, Lacan disait que la beauté, c'est le dernier voile avant l'horreur. L'horreur de l'abîme, justement. On essaie de sublimer ça. La mort, en psychanalyse, en psychologie, en général, en tout cas dans pas mal de courants philosophiques, c'est pas seulement le fait de mourir. C'est vraiment quelque chose de fondamental dans l'agencement d'un manque qui est réellement qui est obligatoire à la vie puisque c'est lui qui suppose le désir. Ça, c'est intéressant, non ?
Oui.
C'est très intéressant. Et alors, quand on m'a dit, Pierre, ce serait bien qu'on parle de la mort... Et en fait, je me suis mis un peu devant ma feuille et je me suis dit, mais en fait, je parle tout le temps de la mort. Parce que le premier épisode, bon, on n'en a pas fait beaucoup, certes, mais le premier épisode, j'ai parlé du rêve. Et le rêve, c'est la mort, j'y reviendrai. Et le second, j'ai parlé du temps. Et il n'y a rien de plus proche de la mort que le temps. Et d'ailleurs, on a parlé de l'absurdité, tu vous souvenez, le mythe de Sisyphe, le rocher, la mort, l'existence humaine, l'absurdité. Pourquoi je parle du rêve et de la mort comme étant la même chose ? Pour en arriver là, il faut qu'on fasse un détour à la Grèce antique. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on aille en Grèce antique ?
Let's go.
Let's go.
Ok. La théogonie d'Hésiode, est-ce que vous connaissez un petit peu la Grèce antique et les mythes ?
Alors, de base, oui, mais toi, te connaissant, tu vas nous parler d'un truc que je connais absolument pas.
Vous allez probablement connaître en réalité. En général, les dieux, c'est les dieux d'un truc. Mettons, je suis le dieu de la table, ok ? Je m'accouple avec le dieu des trucs ronds, ça fait une table
ronde.
Exactement. Mmh. D'ailleurs, on pourrait faire un jeu comme ça, où on fait, par exemple, le jeu de la bêtise et le jeu de la politique, et ça nous donne la situation
l'extrême droite
actuelle. Exactement. Ça nous donne, moi, à mon avis, tout, en fait, la politique. Mais bon, c'est un autre débat. Donc, vous savez très bien que donc, les dieux sont les dieux de quelque chose et qui s'accouplent en général avec d'autres dieux pour créer des dieux d'autres choses.
Des sous-classes, des sous...
des sous-dieux, des pseudo-sous-dieux. J'ai pas d'exemple qui me vient en tête là, mais bref, reprenons. Donc, je vous ai dit que le sommeil et la mort étaient très liés, tout simplement parce que le sommeil et la mort sont des frères jumeaux. Et ils ont été enfantés par qui, à votre avis ?
Romus.
Non, c'est chez les Romains, Romulus.
Rome.
Non.
Par Aphrodite.
Non, c'est la déesse de l'amour.
Par Hadès.
Pas loin. Hadès, c'est dans les ténèbres, mais on n'est pas loin. La mère du sommeil et la mère de la mort, c'est Nyx, c'est la déesse de la nuit. La déesse de la nuit, elle est en couple avec Erebos. Erebos, c'est le dieu des ténèbres.
On ne parle pas de Morphée aussi ?
Morphée, c'est la fille d'Hypnos. Okay. C'est la déesse du sommeil. Alors, c'est la déesse des rêves. Alors que nous, on s'intéresse à Hypnos, qui est la déesse du sommeil ou de la... Enfin, je sais plus. Mais bon, bref, vous m'avez compris.
Moi, j'étais déjà perdu. Si lui, il se perd, ça me rassure.
Vous me perdez. Quoi qu'il en soit, Nyx, elle a eu plein d'enfants, parmi lesquels, par exemple, Némésis. Bon, je n'ai pas tous les noms en grec, mais il y a la douleur, il y a la souffrance, etc. Mais elle a eu particulièrement deux jumeaux, d'ailleurs, et qui sont donc Hypnos et Thanatos. Et la spécificité... dans ce cas précis de ce jumelage de la nuit, c'est que cette déesse Nyx, elle a décidé de les faire toute seule.
Nyx sa mère,
exactement. elle a fait ses deux jumeaux toute seule, alors que d'habitude elle n'avait pas l'habitude de faire des enfants toute seule. Elle a fait un enfant toute seule, j'aurais dû mettre le jingle.
Elle s'est auto-fécondée.
Qu'est-ce que ça vient nous dire de la relation de cette relation entre la mort et le sommeil, à votre avis?
C'est nous avec nous-mêmes.
Exactement. Ça vient nous dire, et c'est ce que veut nous dire Hésiode dans sa Théogonie, que finalement, alors il n'y a pas que l'hypnos et Thanatos hein, qui ont été enfantés par cette déesse toute seule, il y a aussi la douleur et la maladie. Mais bon, quoi qu'il en soit, ces deux jumeaux-là, ça vient nous dire qu'on est seul dans ce manquement, c'est-à-dire qu'il ne nous appartient qu'à nous-mêmes. Je trouvais que c'était assez intéressant de vous le dire.
Ouais. Non, franchement, c'est une approche...
Moi, je suis encore en train de réfléchir. Je pense que je vais réfléchir pendant encore une heure pour analyser toutes les infos que je viens de recevoir d'un coup.
Finalement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que la mort, le sommeil, le rêve, comme vous voulez l'appeler, sont des expériences de la solitude humaine. Et que finalement, quand on se penche bien sur l'humanité dans ce qu'elle a de plus profonde... force est de constater qu'il y a quand même une part de grosse solitude dans l'expérience humaine, dans ce qui fait l'expérience humaine, et d'un côté une part aussi sociale. C'est assez intéressant. Enfin, ouais, bon.
On est ensemble, mais quand on meurt seul finalement.
Exactement.
Et on abandonne et on laisse seul ceux avec qui on était.
Voilà.
Il y a un rapport entre la solitude et la mort, qu'elle soit vécue par nous ou par les autres.
Exactement. C'est tout à fait ça. Ça a à voir avec la parole aussi. Il y a quelque chose qui s'articule autour de la parole là-dedans. On essaye de la parler, cette mort, on essaye d'en dire quelque chose. Et d'ailleurs, on pense que si l'humain continue de parler, c'est précisément parce qu'il n'a pas réussi à tout dire de la mort. Parce que si on avait réussi à tout dire, on ne parlerait plus. On serait mort. C'est les morts qui ne parlent plus. Le jour où quelqu'un va se mettre devant un arbre et dire... ça, c'est un arbre. Et qu'il aura tout dit de cet arbre, l'humanité peut s'arrêter. On ne pourra jamais tout dire. C'est impossible.
Donc l'humanité ne s'arrêtera jamais, si on ne peut pas tout dire.
Exactement. Parce que il y a un manquement fondamental dans le langage, qui est de l'ordre d'un raté de ce qu'il y a dans le réel. Vous voyez ? La mort, c'est précisément ici qu'elle se fige, dans ce petit raté qu'on a entre ce qu'on voudrait dire des choses, ce qu'on pense des choses, et ce qui existe vraiment, et qui nous échappe. Ça, c'était pour la partie un petit peu théorique. Bon, et vous savez que pour Homère, quand quelqu'un mourait, on disait que l'âme quittait l'enclos de ses dents. C'est quand même vachement sympa, non ? Comme façon de dire.
L'enclos de ses dents.
C'est mignon.
Ouais, comme s'il y avait un souffle qui était retenu dans l'enclos des dents, et que quand quelqu'un meurt, finalement, ça s'enfuyait. D'ailleurs, quand les gens meurent, en général, je vous le dis, à l'hôpital, on leur met une sorte de mentonnière. Ça permet de retenir la bouche, parce que quand quelqu'un meurt, en général, ça s'affaisse et ça fait une sorte de béance, de trou, d'abîme. Et ça fait vachement peur à la famille. Donc voilà, ça existe, ce genre de choses. La mort, c'est aussi quelque chose d'un peu tabou quand on y pense, parce qu'on sait qu'on va tous y arriver, et puis d'un côté, le suicide, c'est quand même un peu tabou.
Ouais.
C'est vrai, hein ? Chez les Grecs, vous savez ce qu'on faisait avec les gens qui se tuaient par le glaive ? On leur coupait la main qui avait servi à se poignarder et on l'enterrait à côté. Comme ça, il y avait le mec mort et le tueur.
Ok.
C'est marrant, non ?
Ouais, c'est incroyable.
C'est fou, hein ? Est-ce que vous savez ce que c'est la taphophobie ? Ah, je vous laisse deviner, je vous laisse deviner.
La tapho, c'est PH ou F ? PH ?
Je crois que c'est PH, mais je suis dyslexique.
Tapho ?
Taphophobie ? Taphophobie, je pense que c'est la peur, ça je suis sûr.
Ouais, c'est la peur.
Le début, je le tiens.
C'est la fin du coup.
Ouais, j'ai la fin, j'ai pas le début.
C'est la peur de jamais se réveiller.
Attends.
Pas loin.
La peur de ne jamais mourir.
Pas loin. Il y a quelque chose du côté de la mort, bien sûr. Effectivement, vu que c'est la chronique, les gars.
La peur de mourir dans son sommeil.
Non. C'est pas ça, mais c'est pas loin. Il y a la mort, quoi. Je vous le dis.
Ouais.
La taphophobie, c'est la peur d'être enterré vivant.
Ah, ok.
Alors, pour la petite histoire, il y a eu beaucoup d'écrits autour du 18e siècle, 1740, qui sont sortis, parce qu'on est rentré dans une sorte de paranoïa à ce propos, étant donné qu'on a commencé à découvrir des traces...
De d'ongles sur des cercueils.
D'ongles dans les cercueils, exactement.
Et après, ils ont installé des petites cloches.
Exactement.
Avec une petite ficelle à l'intérieur.
Ça a été un vrai business pendant longtemps et ça a duré jusqu'au 19e siècle, cette histoire. Hein.
Okay.
Ce livre en question, qui a un petit peu mis au goût du jour tout ça, ça s'appelle La dissertation sur l'incertitude des signes de la mort. Et ça a donné lieu à une grande paranoïa sur est-il mort ? Est-il pas mort ? Est-ce qu'on l'enterre ? Est-ce qu'on attend ? Bref. Mais en tout cas. Et il y a dans ce livre que j'ai feuilleté tout à l'heure à la bibliothèque des choses absolument affreuses. Je vous en dis une, par exemple. Ils ont, des voleurs de tombes, ont ouvert un cercueil pour piquer l'anneau de Mémé. Ok, sauf que Mémé, elle était manifestement pas morte-morte quand ils l'ont enterrée. Bon, bien sûr, tu l'as dit, traces de doigts sur le bois du cercueil, ongles déchirés, plus... Elle a mangé sa langue tellement elle avait faim. Est-ce que vous avez l'image de l'autophagie de la langue ? Comment c'est horrible.
Ouais.
Elle était devenue tellement folle, à mon avis, dans ce cercueil, qu'elle a fini par bouffer sa propre langue. C'est horrible. C'est horrible.
Comment elle l'a avalée, du coup ?
Bonne question.
Comment elle a déglutie ?
Bonne question. Et alors, tout ça, ça nous amène aux avancées de la science. Enfin, si on peut parler de science, puisqu'à l'époque, on est encore dans une sorte de balbutiement de balbutiement de la science. Et on arrive dans cette fameuse question de doit-on réanimer ? Doit-on ne pas réanimer ? Et si on réanime, comment est-ce qu'on réanime ? Est-ce que vous savez comment on pensait qu'il fallait réanimer les noyés au 18e siècle ? Je vous le dis, c'est un camoulox.
Comment réanimer quelqu'un qui s'est noyé ?
Et ouais.
Je pense qu'on le mettait la tête à l'envers dans un tonneau rempli d'eau.
Presque bien joué, mais c'est pas du tout ça. Ok, au 18e siècle, t'as un essai peut-être, Henri ?
Non, franchement là...
Au 18e siècle, pour réanimer quelqu'un, on pensait qu'il fallait lui souffler de la fumée de tabac dans
l'anus.
Exactement, l'anus. C'est complètement dans l'anus.
Ça, c'est juste un gars chelou qui avait un petit fantasme. Il s'est dit, non, mais les gars, laissez-moi, je sais faire, moi.
Ça a duré longtemps. Il y a même eu des pratiques après qui ont un peu dérivé du côté de l'urine et de la bouche. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'époque, ils ont même fait créer des machines exprès. Et il y avait cette certitude qu'effectivement, en soufflant du tabac dans l'anus de quelqu'un qui s'est noyé, il va se réveiller. Ça n'a aucun sens.
Mais ça sort d'où, surtout? Qui a eu l'idée?
Ça sort d'où? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez déjà entendu parler, trêve de bavardage sur les choses de l'histoire qui sont un petit peu bizarres, de Georges Perec? Parce qu'on ne peut pas faire une chronique sans que je parle un peu de littérature.
Non. Georges Perec. Marie-Josée Perec.
Ben non, c'est pas loin, mais c'est pas ça. Georges Perec, il a écrit un livre qui, à mon sens, parle bien de la mort, même si je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Georges Perec, il a perdu sa mère, assassinée d'ailleurs, par la barbarie nazie dans les camps. Mais et il a perdu son père à la guerre. Et puis un jour, il a voulu créer un livre avec un petit défi, mais qui nous dit beaucoup de ce qu'est la mort et de comment est-ce qu'on peut la représenter. Il a écrit un livre qui s'appelle La disparition. Non ?
Non. Absolument pas.
Ok, je vous donne le pitch du livre et vous allez comprendre avec des yeux ébahis, tellement c'est incroyable. C'est un livre où il n'y a pas de E. Il n'y a pas la lettre E dans
ce livre. Putain, il a dû se faire tellement chier.
Imaginez à quel point c'est incroyable d'écrire un livre sans E. Imaginez le nombre de mots dans lesquels il y a un E. Et c'est finalement peut-être ça la mort, c'est quelque chose qui nous habite. Dans chacun des mots qu'on prononce, c'est quelque chose qui est là quelque part et qu'on a énormément de mal à dire. Mais finalement, il est constitutif de nous-mêmes. Ouais.
Déjà, l'adverbe « être », quoi, comment il a fait? Il n'y a que « suis ».
Eh bien, il a complètement géré sa race.
C'est dingue. Ouais. Est-ce que le livre est intéressant ou est-ce que c'est juste rigolo?
Le livre est bien. Non, le livre est
moi,
bien.
Moi, je me souviens du coup de ce truc-là. Et je me souviens qu'il y avait des critiques qui avaient un peu... J'avais un peu dézingué le livre sans capter qu'il n'y avait pas de E dedans.
Ah bah oui.
Mais le génie ne se trouve pas là où il se trouve.
Mais c'est fou comme performance, écrire un livre sans E. Et d'ailleurs, je l'ai noté parce que tout à l'heure, je le refeuilletais à la bibliothèque, toujours. Et dedans, il utilise le mot patatration. C'est lié à l'onomatopée patatra. C'est marrant, non?
Oh putain, délire.
Une sacrée patatration. Tu sais, tu déboules dans une pièce.
Ouais, tout tombe.
Voilà. La grosse patatration. C'est fou quand même.
Ouais.
Bon, j'avais dit que je vous ferais un petit tour ethnologique sur les pratiques. Et vous allez voir, c'est hautement poétique. Aux Philippines, dans le village de Sagada, pour aider les morts à passer dans l'autre monde, ils se sont dit, attends, on enterre les cercueils dans la terre. Non, ça va pas. C'est dommage parce qu'eux, ils vont dans le ciel. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Non, plutôt que ça, on va plutôt accrocher les cercueils à la falaise. Plus marrant. C'est fou, non?
Ouais.
Donc, du coup, t'arrives dans le village... Et t'as une grande falaise avec plein de cercueils accrochés. Très marrant. Île de Sulawesi, excusez-moi si j'écorche, en Indonésie. Les Tojara, ils s'appellent. Eux, une fois par an, ils déterrent leurs morts. Attention, c'est un vrai délire. Ils déterrent leurs morts. Ils les nettoient, ils les habillent, ils les maquillent et ils les promènent dans tout le village.
Ah, je crois que j'en entends pas.
Et ils les gardent toute la journée avec eux. C'est fou quand même, non? Dans l'Himalaya, j'ai oublié le nom de ce peuple qui fait ça, mais en tout cas, c'est les habitants de l'Himalaya. Ils considèrent que les vautours, et d'ailleurs dans le bouddhisme, le vautour c'est assez sacré, et ils considèrent que c'est pas psychopompe, parce que psychopompe c'est pour l'âme, mais en tout cas que ça permet de transporter le corps vers les cieux et ça permet d'aider l'âme à monter. Et donc ils accrochent les morts à des rochers et ils les laissent manger par les vautours. Comme ça, ton âme elle monte et ton corps aussi en fait. Puisqu'il est dans le vautour,
okay.
Dans des dieux. C'est beau, non? Enfin, les crânes sacrés à Kiribati. Kiribati, c'est une petite île au milieu du Pacifique. Et ils font un truc assez incroyable aussi. Et je trouve que c'est assez joli. Ils enterrent les morts. Bon, jusque-là, rien d'anormal. En tout cas, rien d'exceptionnel. Et un mois après, ils retournent et ils les déterrent. Et ils prennent leurs os et ils les polissent. Et ils gardent le crâne. Et ensuite, ils remettent les os. Voilà.
Ok.
Comme ça, ils ont toujours la tête. Et ils lui donnent à manger aussi au crâne. Et comme ça, ils la laissent dans la maison. Et puis mamie, elle est toujours là, quoi. C'est cool, non?
C'est pas mal.
Il y a aussi un truc où, je sais plus de quel endroit ni rien, mais peut-être les Mayas ou un truc dans ce genre-là, où ils enterraient sans cercueil, je crois, et pas sur le dos, mais sur le ventre. face au sol, en fait. Parce qu'ils disent, on est de la terre, on vient de la terre, donc on retourne à la terre. Et il y a beaucoup ce truc dans pas mal de croyances où on s'enterre plutôt face au sol.
Oh.
Petite anecdote aussi rigolote, c'est que j'ai quelqu'un dans ma famille, une cousine de ma mère, qui était revenue de voyage, qui avait ramené des babioles de voyage de je sais plus trop où. Et puis après, le temps passe, etc. Et les deux enfants, donc mes cousins, donc il y avait des trucs bizarres dans la maison, des bruits de pas, des trucs comme ça. Et eux se faisaient chatouiller les pieds la nuit, pendant qu'ils dormaient. Ils se faisaient tirer la couette, chatouiller les pieds. Il se passait des trucs, il y avait un monsieur dans la chambre. Ils racontaient plein de trucs, ils avaient peur. Et au bout d'un moment, c'était trop. C'est monté en intensité. Au bout d'un moment, c'était trop et ils ne pouvaient plus supporter. Ils dormaient tous ensemble dans la même chambre et tout pour éviter de se faire emmerder la nuit par des fantômes ou je ne sais quoi. Elle a fini par en parler autour d'elle, etc. On lui a conseillé d'appeler un... Alors, je ne sais plus si c'est un médium ou un prêtre, mais quelqu'un qui pouvait venir nettoyer la maison, entre guillemets. La personne est venue, elle est rentrée dans la maison, elle a tout de suite capté quelque chose. Elle rentre dans le salon, elle a vu deux babioles qu'elle avait ramenées de ce voyage, c'était des gargouilles. Deux gargouilles posées sur sa cheminée. Elle a tout de suite capté, elle a dit « Laissez tomber, cherchez pas plus loin, c'est ça. »
Comme dans Quasimodo.
Ouais. Elle lui a dit « Prenez ces gargouilles, allez rouler 30 km en voiture, allez quelque part, enterrez-les face contre le sol. » Donc pareil, le truc
vers mais le sol. Je crois que dans certaines cultures, c'est maudire quelqu'un que de l'enterrer comme ça.
Mais ça dépend des croyances. Et donc elle a fait ça, elle a été à l'extérieur d'Amiens, les enterrer face contre terre dans le sol. Plus rien, plus d'événements dans la maison. Plus
personne ne leur chatouillait les pieds.
Rien du tout.
Ah, merde.
Tout s'est arrêté du jour au lendemain.
Dernière petite anecdote, mes chers amis, après je vous rends le micro. Tribu des Batamariba. Ça se divise entre le Togo et le Bénin, vu que le découpage des pays africains a été fait à la barbarie. Lorsqu'il y a deux personnes qui font l'amour et qui s'unissent, il y a deux âmes qui sont mortes, qui reviennent du cimetière et qui s'unissent en même temps, dans l'air comme ça. Et l'âme d'un des deux morts insuffle la vie dans le bébé.
Oh wow, c'est perché.
C'est pas trop beau, surtout.
Moi, peut-être la manière dont tu l'as dit, mais moi, ça m'a fait un peu flipper.
Moi, ça me fait flipper et en même temps, ça me rassure.
Ouais, c'est comme si t'avais des parrains morts,
ouais.
Quoi, des parents fantômes.
Ouais.
Ah, mais c'est terrible, hein, t'as vu. Tu sais pas comment sont les grands-parents. Il y en a certains, ils sont mieux morts que vivants. Hein.
Bon, allez, voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu.
Grave. Moi, je voulais quand même sortir un mot compliqué, parce que vu que tu nous sors plein de mots compliqués, j'en avais un en rapport avec la mort.
Ah, j'en ai un aussi.
Est-ce que vous savez ce que c'est, une épectase?
Ok.
Ça me parle.
Est-ce que ça veut dire qu'on a enlevé quelque chose?
C'est Zomat qui l'a calé dans dans le un son d'une après-midi, épectase.
Non, bah,
c'est
dis-nous. Pour ça. Dis-nous.
Une épectase, c'est mourir d'un orgasme.
Ah,
voilà.
Et moi, mon mot, c'était turbo-chouquette.
La turbo-chouquette. Eh bah, ben super, Pierrot, merci beaucoup pour ce petit partage.
J'espère que vous avez appris des trucs et j'espère que vous garderez des trucs.
Et j'espère que nos auditeurs et nos spectateurs sur YouTube ont appris des choses et vont pouvoir aussi réagir en commentaire sous la vidéo YouTube s'ils ont des choses à nous dire. Même pour tout à l'heure, quand on a raconté des anecdotes un peu paranormales, si vous avez vécu des choses aussi... On est dans le partage.
N'hésitez
voilà,
pas.
Venez commenter sous la vidéo. On sera heureux de vous répondre. Petite interlude musicale à nouveau. Voilà. Comme ça, on va ensuite finir cette émission tranquillement avec la minute du Dr Chon que beaucoup attendent, je pense, comme à chaque édition du podcast. Et à la fin, un petit jeu. Encore, j'ai même prévu deux petits jeux. On verra bien si le temps nous le permet. Sinon, on en fera qu'un. Et puis voilà, ce sera sympa. Donc voilà, pour l'instant, on va partir sur Orishas avec le titre Represent. Orishas, c'est un groupe de hip-hop cubain originaire de la Havane. Le groupe tire son nom des Orishas, qui est une divinité de la Santeria dans la religion pratiquée par les descendants d'Africains déportés en esclavage aux Antilles et en Amérique du Sud. Donc tout simplement, ils mélangent hip-hop et musique cubaine avec des inspirations de Cumpay Segundo ou encore le Buena Vista Social Club.
Ah oui, du très lourd alors.
Donc voilà, tout de suite, Orishas Represent.
candidato. Para rumbear en la cadencia, represento mis ancestros, toda la mezcla. No lo pierdas, bro. Latinoamericano de La Habana, te lo mando con sabor mejor. Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana, sentimiento de manana, Habana. Todo eso representa
Cuba, orilla son de la onda de La Habana. Cuba, mi música. Cuba, orilla son de la onda de La Habana. Cuba, tu música.
Pa' la gente, mi zona, pa' mis santos especulando. En el micro, escucha como dice Michael Nico. La música cubana vale mucho, chico. Mi flow que estilo mira viene de La Habana.
Baba, vas-y, bouge ton cul sur le beat, écoute ça. J'prêche pour ma chapelle, Panam. J'représente gars, mes refrains de La Habana. J'rappe, c'est mon dada. Michael Nico, chico, soy loco, siempre flow. J'représente la salsa, le soleil de Cuba. J'oublie Paris, la pluie, son ciel gris et tout ça. J'rêve de belle nana sur la plage de Gros Havana. Pavané, sous les palmiers à fumer, j'représente ça.
Sabor a melao de caña. Ay, dime si te
hey, yo, representando a los orichas de mi Cuba. Monforio, barrio, lofing hasta la sepultura.
Represento la salsa, beat, hip hop, salsero.
Cuando quiero estallar yo me voy a mi zona. Pa' La Habana yo me voy.
Represento el blanco, el noir, el chico, la chica. Chicago a Panamá, Tokio a La Habana. Represento la fiesta, el son de conga, du mec en rap.
Saca los collares que llego chango.
Chango, bata la yema ya, ochun, más fere fun oruli que mi canto suba. Pa' la gente de mi Cuba, mis ancestros, todos mis muertos, todo eso represento.
Cuba, orillas donde ande.
Vous êtes de retour sur les antennes de Radio Campus Amiens après cette petite interlude musicale. Vous êtes toujours dans le podcast sur Radio Campus et en rediffusion vidéo sur la chaîne YouTube du podcast POTEKAST. Si vous voulez venir voir l'émission complète et voir à quoi on ressemble derrière ces jolies voix suaves.
Vous conduisez, vous avez la tête sur la vitre et vous regardez les gouttes d'eau sur la vitre. Oh là là.
Quel bonheur. Il est parti dans un autre concept d'émission, là, Pierrot.
Quel bonheur.
On est sur Arte, là, ça y est, ça a dérivé.
Mais est-ce que tu t'imagines tous ces moments de voiture, là, avec toutes ces voix ? C'est fou, quand même.
Ouais.
Qu'on soit là et qu'on soit aussi...
Dans des voitures.
Dans des voitures. C'est dingue.
Nous allons passer maintenant à la minute du docteur Chon, le docteur qui va nous donner sa prescription.
Oh, l'ordonnance du docteur.
L'ordonnance du doc.
La carte blanche sans transition.
La carte blanche comme ça.
Ok, bah écoutez messieurs, accrochez-vous. Hein. Moi c'est pareil que Pierre, j'ai trois quarts d'heure de texte. Et pour une fois, j'ai vraiment pris le temps de travailler cette carte blanche. J'ai écrit cette chronique il y a à peu près 4 heures.
Félicitations.
Aujourd'hui, comme à mon habitude, on va aborder un thème joyeux et léger. Puisque, comme Pierre, je vais vous parler de la mort. Bon, vous savez tous ce qu'est la mort. Je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer le truc. Normalement, si vous n'êtes pas teubé, vous avez pigé le concept depuis longtemps. Il y a la naissance, puis la mort, le cycle de la vie, tout ça, tout ça. Non, je vais plutôt vous parler d'un point très précis de la mort. Et c'est la mort de mon père. Direct, ça met dans l'ambiance. Je vous préviens, je vais commencer l'histoire par la fin. Et attention, alerte, spoiler, mon père n'est pas mort. C'est plutôt le contraire d'ailleurs. Il se porte comme un charme, ce beau gosse. Il a actuellement 75 ans et il va gentiment vers ses 25. Mais l'année dernière, mon père a décidé de partir en voyage une petite année au Mexique. Ça faisait genre 50 ans qu'il n'était pas parti en road trip et le Boug décide, à 74 piges, d'aller kiffer sa meilleure vie au Mexique. Normal. Bon, c'est également parce que ma sœur allait accoucher là-bas, mais ce n'est pas le sujet du jour, revenons à nos moutons. Jusqu'alors, on n'avait jamais parlé de la mort, lui et moi. Enfin, quand je dis de la mort, je dis de la mort, mais plutôt de sa mort, puisqu'en toute logique, il est censé mourir avant moi, le salaud. Si on se réfère à la loi divine sur les gens qui vieillissent, évidemment. Et moi, j'acceptais sans sourciller ce fatalisme intemporel. Mon père va mourir un jour, et ce jour se rapproche inexorablement. Bizarrement, je me sentais relativement à l'aise avec cette idée. Déjà parce que ça me paraît on ne peut plus naturel, et puis j'ai l'impression que j'ai toujours connu mon daron vieux, alors quelque part. Mais d'un coup, à une semaine de son départ, alors que j'étais les pieds dans le sable, un cocktail à la main au sud de Barcelone, une pensée est venue s'immiscer dans mon esprit. Et si j'avais vu mon père pour la dernière fois ? À partir de cette pensée-là, j'ai revu subitement mon sens des priorités. Après tout, les vacances, le soleil, les magnifiques femmes en topless, les mojitos à 3 balles sur la plage, qu'est-ce que cela vaut ? Qu'est-ce que cela vaut face à l'incertitude de revoir son père un jour ? Je vous laisse imaginer la scène. À ce moment-là, je pense vraiment être le seul connard aux alentours qui sent les larmes monter alors qu'il se baigne dans une mer à 29 degrés avec ses potes en Espagne. La suite est logique. J'ai fini mon cocktail, j'ai immédiatement lâché mes potes, je suis monté en voiture, direction la Normandie, et j'ai passé 4-5 jours avec l'ancien. Avant son grand saut vers l'inconnu. Enfin, plutôt son petit saut vers l'inconnu, j'espère bien qu'on gardera le grand pour plus tard. Puis, 9 mois après, rien n'avait changé, si ce n'est un neveu de plus dans la famille. Et mon père est revenu de son périple, toujours beau gosse, comme il était parti finalement. Je peux pas finir cette chronique sans une pensée émue pour un de mes frérots d'enfance, Hugo, qui a subitement perdu son père il y a quelques mois, en gardant précieusement en tête de toujours profiter du temps qu'on passe avec les siens. On ne sait jamais quand ce sera l'heure de leur dire au revoir. Bref, garde la pêche, l'ancien.
Waouh, c'était si incroyable. Beau. Et j'en profite pour lâcher un petit big up et une petite pensée à tous ceux qui ont perdu leurs parents ou un de leurs parents. On est avec vous. Merci, docteur.
Merci.
Très belle minute du docteur Chouan, encore une fois. Très poétique.
C'est vrai, mais c'est fou quand la mort s'insuffle comme ça en toi et que elle ouais, c'est dingue. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi.
Moi, j'ai eu une grosse période quand j'étais jeune, pendant ça a duré un an ou deux peut-être, où j'ai eu peur de la mort à fond, où en fait je pleurais tous les soirs en me couchant parce que le jour où j'ai compris, où je me suis dit un jour je vais m'endormir là, je vais me mettre dans mon lit comme ça, je vais m'endormir et je vais pas me réveiller. Et ça m'a mis un bad de fou furieux. Et tous les jours, je pleurais, tous les soirs. À ce moment-là, au moment de me coucher, je me disais, putain, mais attends, je me refaisais le film à chaque fois. Et j'ai arrêté d'avoir peur le jour où j'en ai parlé avec mon frère, qui m'a dit, non, mais t'inquiète. Il m'a dit, le jour où tu vas mourir, tu seras content de mourir. Tu seras vieux, tu auras mal partout, tu auras une bête de vie. Et c'est toi qui décideras de partir. Et là, j'ai dit, ok.
C'est sympa. C'est vrai qu'à 6 ans et demi, moi, je trouve que tu flippais un peu pour rien, quoi.
Ouais. Certainement aussi.
C'est peut-être. Fou quand même que ça t'ait traversé comme ça. Mais
ça normal. A duré, ouais, hein, ouais, 6 mois, 1 an. Je me souviens même en vacances. J'étais en vacances, je pleurais dans mon lit. Je faisais des crises d'angoisse de fou et tout. Ça m'a duré, ouais, 6 mois, 1 an, un truc comme ça. Puis après, j'en ai parlé à mon frère. Puis du lendemain, bah les couilles, j'ai dormi comme un roi.
Techniquement, étant donné que 3/4 des gens meurent dans un lit, si t'arrêtes d'aller dans un lit, t'as moins de chances de mourir.
Petite stat aussi intéressante qui vient de me revenir. Il y a l'INSEE ou je ne sais quel organisme qui a fait une analyse, qui a analysé toutes les morts des gens sur 20 ou 30 ans et qui ont du coup déterminé le jour de l'année où on meurt le plus et le jour de l'année où on meurt le moins.
Le 1er janvier.
Presque.
Le 31 ?
Non, le 3 janvier.
Ah.
Explication à ça, c'est que les personnes âgées qui n'ont pas tardé à passer l'arme à gauche s'accrochent pour les fêtes de fin d'année pour passer un moment en famille. Et il y a aussi ce truc du nouvel an, nouvelle année, nouveau cycle. On passe un cap et on se relâche après. Du coup, c'est le jour de l'année où il y a le plus de morts, c'est le 3 janvier. Et à l'inverse, le jour de l'année où on meurt le moins, c'est le 15 août. Ça, par contre, je n'ai pas d'explication.
Les départs en vacances, ouais, l'été, tu peux pas mourir un jour où tu pars en vacances. Quoi.
Ouais.
C'est pas...
Je trouvais ça hyper intéressant comme statistique.
C'est vrai.
Je trouve ça marrant.
Et à un moment, j'ai hésité parce que je me suis dit canicule. Alors peut-être l'été, mais non, finalement, non. Intéressant.
Voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup, docteur, pour cette petite prescription du jour.
Merci, docteur.
On approche.
C'est le frigo.
C'est plus de batterie sur le plan large. Donc, on va rester avec deux plans serrés.
C'est très bien, deux plans serrés. On fera des cuts, 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 ping-pong.
On va faire les petits jeux, le ou les petits jeux de fin d'émission. Premier petit jeu, c'est un jeu d'improvisation. À quel point savez-vous improviser ? Je pense que Dr Chon est plutôt à l'aise en improvisation, lui qui a fait du slam et qui freestyle.
Ça va, mais après, je suis assis à côté d'un psychologue, donc moi, je me méfie à peu près de tout à partir de maintenant.
Je suis chaud de ouf.
On va tout simplement raconter une histoire à trois, tous les trois. La règle, une seule règle, un mot chacun.
Ok.
Les déterminants, les trucs, les le, les c'est, tout ça, ça compte comme un mot. Ok ?
D'accord.
Soit on s'impose un thème, soit on part en freestyle complet et on voit où on va.
Freestyle, envoie la sauce.
On envoie la sauce ?
Envoie la sauce.
Je commence avec le premier mot ? On fait comme ça, tac, 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 on va jusqu'à Dr Flon, on revient, ok ? Un.
Ah, mais on avait dit que ça ne comptait pas.
Si,
il a dit que ça comptait.
Ah, tout compte.
Eh les gars, c'est ouf comment les jeux ils sont toujours simples et avec vous, c'est toujours une galère. J'ai déjà remarqué ça la fois d'avant et la fois d'avant aussi.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah bon ?
Moi, je trouve que ça va.
Tu te rappelles pas le jeu où on devait deviner un mot en même temps, là ?
La connexion mentale.
La connexion mentale, nous, c'était horrible. Ah non, c'était horrible.
Non, moi, j'ai trouvé ça cool, moi.
Oui, c'était fou.
On a galéré, mais c'est le but du jeu aussi, tu vois, de galérer un peu.
Oui.
Donc, je pars sur un.
Ok, dromadaire.
Va.
À.
La.
Plage.
Et.
Prend.
Du.
Pain.
Pour.
Se.
Pignoler. Ça y est, ça dérape.
Les.
Cet après-midi.
Avec.
De.
Dromadaires.
Ah oui, le chiffre 2. Oh, bien, ouais.
Deux dromadaires qui
ont
des
pattes
crochues.
Ah, je pensais à des pattes à manger, moi.
Moi, je pensais à des.
Le
lendemain,
une
petite
dromadaires
nommée Giselda.
Se
coiffa
gentiment
les
dents
avec
du
parmesan
moisi.
Allez, franchement, on peut s'arrêter là.
On peut s'arrêter sur le parmesan moisi.
Elle était belle. On pourrait en faire un dessin animé de ce qu'on a raconté. Ah, ça serait fou.
Ce serait fou.
Pierre, tu engages pour la deuxième. On s'en fait une deuxième quand même.
Allez, ça. Je peux dire deux.
Non.
Qu'est-ce qui...
voiture.
Du coup, ouais, ok, on est parti.
Sa voiture ne
peut.
On parle de sa voiture à qui on sait même pas.
Non. Mais non, mais oui, parce que je voulais dire oui, mais c'est pas grave.
Donc sa voiture ne
peut
plus
rouler
avec
deux
personnes
qui
s'aiment
dedans.
À
20h.
Par contre,
si
il y a
anguille
sur
lampadaire,
ça
promet
une
belle.
Glace
à lécher.
À la cerise, espèce de.
Ah, oh, bâtard!
Oui. Un malade, c'était facile.
Oh putain! Ah. Je pouvais pas dire la cerise, je pouvais vous dire ah.
Oui, non, ah. J'ai dit ah. Et toi, t'aurais dû dire là. Et
à l'heure où le podcast sortira, probablement.
Oui, le clip de Dr Chon, le nouveau clip de Dr Chon sera en ligne.
Oui, il est sorti il y a à peu près. Non, ça sort dans 4 jours, mais du coup, quand vous le regarderez, ça sera sorti depuis 2 mois et demi.
Non, depuis quelques jours.
Oh, n'exagère pas, toujours dans l'exagération.
Depuis quelques jours, du coup, n'hésitez pas à streamer Dr Chon, D-R-C-H-O-N, sur les réseaux et Chon Glace à la cerise sur toutes les plateformes de téléchargement légales.
Un clip de qualité.
Ouais. clip de grande qualité. On a ramené les acteurs, les figurants, les accessoires et deux, trois surprises à l'intérieur.
Et des dromadaires.
Et on a complètement avorté cette, cette partie du jeu, du coup.
Ah, mais je me pensais qu'on allait s'arrêter là-dessus.
Moi aussi.
On pouvait. Ouais,
je trouvais que c'était une belle chute.
Oui,
une belle
chute. Vous voulez en faire un dernier pour, avant d'enchaîner sur le prochain?
Non. Si.
Non, on s'arrête là-dessus.
Ouais.
On s'arrête sur ça?
Ouais, on s'arrête sur ça. On va sur le prochain jeu.
Alors, deuxième jeu, dans ce cas-là. Ce jeu s'appelle le compte à rebours.
Ok.
Tout simplement, je balance un thème. Et on doit dire un mot, enfin un truc de ce thème, chacun notre tour, jusqu'à plus soif. Celui qui n'a plus d'idée, on a 3 ou 5 secondes pour répondre. Celui qui n'a plus d'idée est éliminé.
D'accord.
Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un.
Je vais être champion.
Je vais faire l'arbitre.
Je vais être calife.
Premier thème, vous aimez les capitales?
Vas-y.
Oh, mais on part c'est sans fin.
Bah si, parce qu'il y a, il y a une limite de pays. Les capitales du monde.
De quel monde?
De notre monde.
Ah, je pensais qu'on parlait de Xantix 3000.
On va laisser Dr Chon commencer.
Ok, moi je dirais Caen.
Mais c'est pas une capitale.
Non, j'avais juste envie de placer ma ville comme ça au micro.
RPZ, les gagnants.
Paris.
Bah Londres. Hein.
Lisbonne.
Je suis obligé de réfléchir, ça va pas du tout. Berlin.
Rome.
Madrid.
Putain, les
3,
gars.
2.
Parce qu'il y en a trop.
1. Une réponse tout de suite.
Ok, je vais dire New York.
Non, c'est pas une capitale.
C'est pas une capitale.
C'est la capitale de l'État de New York.
Ouais.
Donc, Dr Chon est éliminé.
Ça a été si vite.
On continue à 2.
Mais moi, ça m'a arrangé tellement, les gars, parce que c'est un jeu dans lequel je suis particulièrement nul.
Stockholm.
Ulaanbaatar.
J'allais dire Ulaanbaatar.
Attends, c'est la capitale de où, ça?
La Mongolie.
C'est la Mongolie, okay, ouais. Okay. Canberra.
Pékin.
Johannesburg.
Tokyo.
Brasilia.
Singapour.
Pékin.
Tu vois, je l'ai déjà dit.
Pékin.
J'ai gagné.
T'as dit Tokyo.
Oh, j'ai dit Pékin.
Il a dit Pékin.
J'ai dit Pékin. Putain.
Ok, Pierre.
Je suis encore le champion du jeu. C'est fou d'être champion comme ça tout le temps.
1-0 pour Pierre. On passe à la deuxième catégorie.
Vas-y.
Film d'horreur.
Oh là, mais les gars, mais
vu qu'on était sur la thématique un peu
très Halloween. Très bonne thématique.
Pierre commence, du coup, honneur au gagnant.
Ah, Chucky.
Ok, la colline a des yeux 2.
On valide pour toutes les occurrences de la colline a des yeux.
L'exorciste.
Exactement, ouais. Halloween.
Ok. Shining. Ça rentre.
Ça rentre.
Conjuring.
The Wolf Creek.
Annabelle.
Sinister.
Insidious.
Elle est fou.
Comment? Shaitan.
Ouais. Cimetière.
Ça marche, souviens-toi l'été dernier?
J'en sais rien.
Et de quoi il me parle? C'est un film d'amour, ça.
Ah bon?
Souviens-toi l'été dernier, c'est avec Ryan Gosling.
Ah, il me semble que c'était un film d'horreur.
Ah. Pierre éliminé.
Ah,
désolé.
À vérifier. Hein.
Ça se joue entre nous deux.
Non, en vrai, j'en ai aucune idée, Pierre. Je dis de la merde. Je sais pas.
Sinon,
je sais
tu peux. Plus, je sais plus. T'as de quoi vérifier ou pas?
Souviens-toi l'été dernier, mais je mate direct, frérot.
Et sinon, j'ai un American Nightmare.
Ah non, mais trop tard, frérot. T'as perdu là.
Non, mais. Ah oui, bah oui, si j'ai perdu, j'ai perdu.
Si t'as perdu.
Si j'ai pas perdu, j'ai pas perdu.
Vas-y, si t'as pas perdu, t'as pas perdu.
Bon, et si j'ai pas perdu, j'ai pas perdu.
Est-ce qu'on peut. Peut-être si on va avoir une réponse rapido sans régie.
Régie, 1-2. Turbo Chouquette.
Bon, on va dire que t'as perdu.
J'ai perdu, okay. J'ai perdu, ok.
Du coup, ça va.
Ouais.
Saut.
Massacre à la tronçonneuse.
Oh, le fou. La cabane au fond du jardin.
Ça existe pas, ça. Je suis sûr que t'aurais dit juste la cabane
dans les bois. La cabane dans les bois.
La cabane dans les bois.
Oui.
Ça existe, ça?
Oui, sur Netflix.
Putain, j'ai failli dire ça.
Bah oui, mais là, ça, c'est pas
quoi
possible. Bah, attends,
mais non, j'ai préféré dire du Cabrel comme ça.
Parce que c'est son émission.
Dans la cabane au fond du jardin.
Non, mais du coup, ça fait un point pour moi, c'est bien. Troisième thème.
Ok.
Ah bah oui. Les émissions de télé.
Ah non, j'ai pas la télé.
Ah oui, mais ça va, tu te reconnais de quand t'étais petit. Donc je commence, vu que j'ai gagné. La roue de la fortune.
Les enfants de la télé.
Taratata.
Qui veut tout le monde veut prendre sa place.
Attention, je pose là le big deal.
Oh oui.
Qui veut gagner des millions.
Apprendre ou à laisser.
Faites comme chez vous. Du côté de chez vous, excusez-moi.
On te l'accorde.
Fort Boyard.
Koh-Lanta.
L'île de la séduction.
Waouh.
Waouh.
Mais je vous dis, j'ai plus la télé depuis longtemps.
Love Story.
Secret Story.
Oh, bah la Starac.
Popstar.
Oh,
Attention à la marche.
Thalassa.
Star Academy.
Il l'a déjà dit.
Je l'ai déjà dit.
Je suis éliminé.
Éliminé. La Nouvelle Star.
Zone Interdite.
Enquête Exclusive.
Capital.
Recherche Appartement ou Maison.
Top Chef.
Les Reines du Shopping.
Master Chef.
Le plus grand pâtissier.
C'est que je te passe.
C'est quoi?
C'est le plus beau pâtissier.
Non.
L'amour est dans le pré.
Interville.
Oh, wow. Belle ref. Des chiffres et des lettres, tu l'as déjà dit?
Non.
Ah, ouf.
Putain.
3.
J'en ai plein.
2.
Oh, j'ai un trou de ouf.
1.
TPMP.
Slam.
Tu me fais chier, Pierre.
1.
3. 2.
Le truc des animaux, 30 millions d'amis.
Pawn Stars.
Hein?
Pawn Shops, Pawn Stars.
Ouais.
Discovery Channel. Pawn
Stars. Putain, t'es chiant.
Je peux pas vous racheter ça à moins de 10 000 euros.
In the Boîte.
Oh. Peep My Ride.
Il est agressif. Hein.
Les gars, c'est lui, il a pas la télé, c'est lui qui a le plus de refs.
3.
Je les ai en tête.
2.
Un truc sur France 2. Des ailes. Des racines et des ailes.
Oh, bien vu, des racines et des ailes.
Ouais, des racines de DZ. Alors,
ouais.
Confession intime.
7 à 8.
Faites entrer l'accusé.
Putain, mais Pierre, t'es chaud.
Là, il a une anti-sèche, je te jure.
Non,
il
mais grave. Les 30 histoires incroyables. TF1, si.
La France a un incroyable talent.
Oh là là.
Il est chaud.
Le truc derrière le rideau, là. Tu sais, voulez-vous voir qu'il y a derrière le rideau?
Ouais, ouais, c'est ça. Le nom,
c'est
là.
Ça le nom, voilà. Voulez-vous voir qu'il y a derrière. Non, bah du coup, je vais dire le... T'sais.
3. 2.
Le plus grand cabaret du monde.
Oh, bien vu, le plus grand cabaret du monde. J'ai un truc qui s'appelle Monster Hunter. C'est un alors, vous allez pas me croire, mais c'est une émission.
Je vois très bien.
C'est une émission de pêche.
Si, je vois très bien avec le vieux là.
Qui pêche.
Ouais, exactement.
Ok. Le C'est pas sorcier.
Oh, c'est, ça commence à être dur là. Du côté de... Non, putain, je l'ai déjà dit. Bon, c'est bon, j'abandonne.
Oh oui, putain, je suis allé la chercher celle-là. J'avais encore E égale M6. Ouais,
franchement, on en a fait beaucoup. Hein. Je pense qu'on peut mettre un compteur, mais on est au moins à 30.
J'ai encore deux thèmes. Je vous laisse choisir entre méchants de films ou des chauves connus.
Méchants. J'aime bien les méchants.
Ouais, mais les méchants, vas-y.
Les méchants?
On connaît pas beaucoup de chauves en vrai.
Bah, des chauves connus, il y en a. Attends.
Barthez,
Trezeguet, Harry Roselmack, Bruce Willis, The Rock.
Ouais, t'as cité ceux que je connais, c'est bon.
Ouais, voilà.
C'est bon, on part sur les méchants de films. Et du coup, c'est moi qui engage.
Ok.
Cruella.
Maléfique.
Dark Vador.
Voldemort.
Sauron.
Saruman.
Attends, on dit pas tous les méchants dans Seigneur des Anneaux.
Scar.
Oh, Scar. Le baron. C'est quoi? Le baron. J'ai oublié son nom. Le
baron chaussette.
Oh, je l'ai plus, mince. Dans le
baron
prince
jaune.
Et la grenouille, non, vous l'avez pas.
J'ai pas la ref.
Le baron papillon.
Tu sais, c'est le baron qui, c'est l'enfer et il a des cartes sur son chapeau. Non.
Non, je vois pas.
C'est un dieu vaudou. Non, vous l'avez pas.
C'est mort.
Non,
c'est
je l'ai pas.
Je suis désolé.
J'aurais pu en trouver un autre.
Malheureusement.
À toi, docteur Chon. Moi, j'ai en trouvé un. Putain, je suis pas.
Hadès. Oh, est-ce que c'est vraiment un méchant?
Capitaine Crochet.
Ok, Captain Barbossa.
C'est dans le Pirate des Caraïbes, ça?
Ouais.
Hein. Merci pour l'inspi.
Oh, Ah putain, je commence
à fatiguer. 3 heures d'émission.
De film.
De
nul sur 20.
Putain, ouais. Non, je l'ai pas.
Les gars, et franchement,
quelle honte. On a fait 3 mecs.
C'est une honte de ouf.
C'est une grosse honte.
Et moi, j'avais le plus facile de tous. Le grand méchant loup.
Ah ouais, pff, ouais, j'avoue.
T'es sûr que c'est le plus facile de tous?
Bah, il y a méchant.
Pour moi, Dark Vador, c'est évident. Voldemort, tu vois, c'est les plus évidents, quoi.
Hein?
Si, 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 en deuxième.
Bon, bah voilà, c'était les petits jeux de fin d'émission. J'espère que ça vous a plu.
Cette émission, on peut faire un au revoir en impro?
À dire au revoir
en impro.
En impro?
Oui.
Ok, je commence?
Allez.
Eh bien,
c'est
la
fin
des
soirées
podcast.
J'espère
que
vous
touillez
correctement
votre
tasse
de
soupe
à
l'heure
qu'il
faut
avant
d'aller
mourir.
Incroyable.
Voilà, très bien.
Je pense que tu as vu pareil, c'est des fois tu sens la conclusion. Là, j'ai senti un point.
Ouais, ouais, il y avait un point après. Merci à tous d'avoir suivi le podcast sur les antennes de Radio Campus et sur YouTube. On vous le rappelle, si vous avez rattrapé cette émission en cours d'émission, non, si vous avez
attrapé
cette émission en cours.
Cette cour de.
Ouais, c'est... Bon, ils ont compris les gens.
Qui a la couru.
Ils ont compris les gens, ils sont pas.
En termes de course.
Mais en tout cas, si vous avez raté une partie de l'émission que vous voulez la voir dans son intégralité, n'hésitez pas à venir sur YouTube, sur la chaîne du podcast POTEKAST. Donc vous pouvez venir nous voir en rediffusion vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube déjà, eh bien abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce qu'elle c'est une petite chaîne. Voilà, c'est une petite chaîne qui
très
qui,
petite.
Voilà, qui fait sa petite place sur le YouTube game. N'hésitez pas à follow aussi le Dr Chon sur les réseaux qui a sorti un clip il n'y a pas longtemps. Pierre, ici présent, n'a pas de réseau, donc ne le suivez pas.
Ouais.
Vous pouvez le suivre dans la rue, éventuellement, si vous le croisez.
N'hésitez pas.
Il est souvent à la bibliothèque. Et voilà, moi c'est Jawai, vous pouvez me suivre également sur Instagram ou sur YouTube. Un petit mot de conclusion peut-être, je ne sais pas, quelque chose.
Pina Colada.
Pina Colada.
Turbo Chouquette.
Et Nana Mouskouri. Merci à tous et à la prochaine.
For today's not known, and every station is the same song too. It plays on loop, deja vu. I'm not in the dark about who to vote for while sitting in the dark. Good folks, I think we need a talk. Wisdom taught, name your kids after they speak and walk. They should keep the torch to lead us out, these Egyptian whores. It's long way from the soup dinners. Four room, bitter cool winters to heated pools even. All my goons went from baboons to zookeepers. When you was too sheepish to join the wolves eating. My OG carried two pieces. Bucket for the chicken sold to the earthy two season. Newsreader, gloomy forecast like Buddha's two Caesar. Drew me flow plans to tunnel through Egypt to the gold found. I'm just trying to dribble through my homeland. The gods must be crazy dealing with this cold glass. Smoked out cousin, whole lot of nothing. Nose running, wanna go clubbing. I'm the gold funding when he old loving. Pity the sheep, follow the wolf. Making the meal from low hanging fruit. They keep telling me gone are the rules. Kids mouthing off the long and the tooth. Each time I talk, you're here, but are you listening, kid?
Deja vu.